Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, assisté de Victoria. Document d'archives du 4 août 1993, rediffusé dimanche 15 juillet 2012 dans la nuit de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir à tous. Le mois d'août est difficile. Hein. Oh là là là, qu'est-ce que c'est long un mois d'août surtout, c'est très très long, parce que personne ne travaille, vous savez qu'il n'y a personne. Vous avez remarqué.
À Paris ?
Oui.
Mais un monde fou, on peut pas se garer, nulle part.
Oui.
J'ai même mis exactement 15 minutes pour me rendre de Ouagadougou au boulevard Murat, en passant par Ouarzazate et Tizi Ouzou.
Eh ben oui.
Vous voyez que la circulation se fait fort bien.
C'est des itinéraires curieux. Vous avez sans doute reconnu, pour les plus anciens auditeurs de cette émission, très auditeurs de cette émission, vous avez certainement reconnu une voix que vous entendiez il y a combien? Oh là, il y a 10 ans maintenant.
25, 30 ans.
Qui est la...
Et en comptant en nouveau...
Oui,
en nouveaux ans.
Pourquoi il parle pas dans son micro,
parce monsieur. Qu'il a perdu l'habitude depuis le temps. Voilà. Alors, c'est la voix de Mathieu Huguenet, qui est rédacteur en chef à Minute, ou 2 minutes, je ne sais plus comment il faut dire, parce que je ne suis plus dans la boutique.
Ah, donc, une partie bus fidélis.
Alors, rédacteur en chef à Minute, chargé plus spécialement des questions financières, monétaires, budgétaires, investitaires.
Mais j'ai deux jolies casquettes, vous savez que j'adore les jolies casquettes. L'autre étant d'être responsable de la lettre bleue de Mathieu Huguenet, qui est une remarquable lettre confidentielle auquel je conseille fort à ceux qui veulent gagner autant d'argent que Monsieur Georges Soros de s'abonner.
Ouais.
Ils seront initiés d'une manière tout à fait légale.
Voilà. Si vous voulez être des initiés légaux, il faut lire la lettre bleue. C'est fort bien fait. En plus, j'aime bien qu'on parle de la lettre bleue parce que c'est quand même moi qui l'ai inventée. Mais c'est vous qui l'avez réinventée puisque c'était une lettre d'information politique. Vous en avez fait une lettre d'information financière.
C'est la même chose. Faites-moi de bonnes finances, de bonnes politiques et vice-versa.
Alors Marc, je vous ai demandé de venir parce que je vais vous faire une confidence. Mais vraiment, alors, c'est pas une manière de parler, hein. Je n'y comprends rien, mais rien. Je pense que d'ailleurs, 99% de mes contemporains sont dans le même cas. Personne ne comprend rien à ce qui se passe.
Rassurez-vous, 100% ne comprennent rien du tout à ce qui se passe. Bon. Et ce, il n'est pas totalement nécessaire de comprendre pour, c'est le principe de la critique, moins on en comprend les choses et plus il est éventuellement possible, c'est le fameux œil neuf de ne pas perdre ou d'éventuellement de gagner.
Il faut vraiment que vous parliez face au micro. Je crois qu'on a un problème avec ce micro. Il faut que vous soyez bien
face. Il faut juste être devant.
Voilà, c'est ça.
Mais vous avez le problème. Le micro est fixe, mais le fauteuil a une tendance à tourner très, très, très rapidement.
Bon, on peut vous faire changer de fauteuil si vous voulez.
Il faut jamais changer de fauteuil.
Je vais lui tenir la tête face au micro.
Alors, on va donc parler de cette crise monétaire. On va vous demander des explications. On va vous demander qui sont ces gens, qui sont ces Soros et compagnie, quels sont leurs rôles exacts et quelle est leur importance. Mais avant, je voudrais, comme on est en été et qu'on a le droit de se détendre en été, je voudrais faire deux choses. D'abord, vous faire écouter un vieil enregistrement. Vraiment vieux, hein. Ça doit dater de...
du temps où nous faisions des émissions ensemble.
Oh non, encore plus vieux que ça, parce que ça date de 1935. Mais ça me paraît bien résumer la situation actuelle.
Je marchais déjà, je vois.
Vous marchiez déjà. Moi, je n'étais même pas une lueur de concupiscence dans l'œil de mon pauvre père. Donc, c'est un enregistrement de 1935. Ça me paraît résumer assez brillamment la situation actuelle. Et puis ensuite, on verra tout ce que Victoria ne nous a pas dit de l'actualité et qui, à mon avis, méritait quand même qu'on s'y arrête 2 minutes parce que c'est des informations qui, moi, me paraissent importantes parce qu'elles sont agréables à entendre, enfin agréables. Elles montrent bien qu'on est toujours resté dans l'ambiance, dans cette ambiance-là. On va écouter.
Allô, allô, ici Radio Loufoque. Mes chers auditeurs,
qui dit ?
Aujourd'hui, notre micro est installé à la maison de retraite des travailleurs du chapeau. Nous sommes en ce moment devant la grille du parc de la maison de retraite, admirablement située au milieu d'un superbe terrain vague, flanqué d'un côté d'une usine de produits chimiques et de l'autre d'une distillerie de noirs de fumée. Mais voici que s'avance le directeur de la maison, à califourchon sur un poney, entouré de son conseil d'administration et suivi de la fanfare de l'établissement. Monsieur le directeur, quelques mots pour nos auditeurs, je vous prie.
Ben, comme vous le voyez, je porte toute ma barbe.
Mais vous êtes rasé.
Oui, mais je la porte sous mon bras dans un petit sac qui ne me quitte jamais. Et ce, pour des raisons de défense nationale que vous comprendrez aisément.
Chut ! Méfiez-vous ! Méfiez-vous !
Mais c'est lumineux comme du poussière ! Qu'est-ce qu'on entend là ?
Ben, c'est le plombier qui accorde le chauffe-bain.
Parfaitement.
Mais entrez donc, nous allons visiter la maison. Voici tout d'abord les cuisines.
Je ne vois pas les fourneaux.
Mais non, ici nous faisons toute notre cuisine aux allumettes suédoises. Vous comprenez pourquoi ?
Bien sûr !
Nous donnons à nos pensionnaires une nourriture saine et abondante. Tenez, voici le menu d'aujourd'hui. Confiture de foin d'artisseau, carpette sautée, pomme paille de fer, mâche fer rémoulade, cordon de sonnette à la tomate, sandwich au pain, friture de clé à molette, et comme vin, soucroute garnie en carafe, et pain d'épices 1903.
Quel menu !
Oh, et encore aujourd'hui, c'est un repas léger. Si vous étiez venu hier, il y avait un de ces six bêtes buffes et un riz deux. Oh, on s'y régalait.
Croyez bien que je regrette vivement, mais dites-moi, qu'est-ce que le sandwich au pain ?
C'est une légère tranche de pain glissée entre deux autres tranches de pain.
Quelle trouvaille !
Oui, et quand il pleut, on remplace la tranche de pain par une tranche de gabardine. Ah, minuit moins 10, c'est l'heure de l'apéritif. Veuillez me suivre sur la terrasse. Attention, il y a 123 mœurs à descendre.
Ah, la terrasse est en sous-sol.
Ben, ça vous étonne ?
Oh, pas du tout, pas du tout.
Voici le grand restaurant.
Mais que font ces deux messieurs qui frappent à coups de marteau sur la tête de ce troisième monsieur ?
Ben, casse la croûte.
Ah, très bien, oui, oui.
Continuons notre visite. Voici le dortoir.
Mais je ne vois pas les lits.
Eh ben, vous avez déjà vu des lits dans un dortoir, vous ?
Non, non, mais sur quoi dorment vos pensionnaires ?
C'est sur leurs deux oreilles.
Ah, alors ? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est le gentilhomme porte-clés qui annonce la fermeture. La visite est terminée. Je vais vous reconduire à la grille.
Je vous remercie, monsieur le directeur, pour votre aimable accueil.
D'orga, monsieur d'orga. Et en votre honneur, la fanfare va avoir le plaisir de vous jouer. Voulez-vous de la sûre ? Rhapsodie hésitation. Que je vais d'ailleurs conduire moi-même.
Et vous n'avez pas de baguette ?
Les jours de gala, je conduis toujours avec un becoué. C'est tellement plus gai. Asseyez-vous sur cette tarte aux cerises et nous commençons. Attention, messieurs, à mon coup de sifflet.
Voilà, on pourrait croire que c'est un enregistrement clandestin du dernier Conseil des ministres, mais pas du tout. En réalité, il s'agit de la réédition, comme ça qu'on peut dire,
je pense. Oui, oui, ouais. Si vous le dites.
D'un très très vieux, enfin d'un sexagénaire.
Non, merci.
Pardon.
Ah, non, mais c'est une récente. C'était un disque tout à fait récent.
Tout à fait récent. Et donc c'est un enregistrement de Pierre Dac. Caso Guillermin et Rosena, Fernand Rosena, qui jouait le rôle du journaliste. Ça s'appelle « À la maison de retraite des travailleurs du chapeau ». Et ça a été fait en 1935 par Pierre Dac, qui, vous avez remarqué comme il zozotait ou il zézayait à l'époque ? Oui, mais par la suite, ça s'est un peu atténué, mais là, c'était vraiment effrayant. C'est, à mon avis, c'est le séjour à Londres qui lui a fait disparaître.
Oui, bon, c'est comme le duc de Chivoli.
Voilà. Et c'est étonnant de...
D'actualité.
Asseyez-vous sur cette tarte aux cerises.
Oui, les tartes aux cerises existent toujours, si ce n'est que maintenant elles sont surgelées. Mais...
Voilà. Non, mais j'ai trouvé que ça symbolisait assez bien la situation dans laquelle on est en ce moment.
On y ajoute, si vous voulez, pour bien synthétiser la situation, on met cette...
cet enregistrement. On y ajoute, j'ai la bourse qui se dilate ou la rate qui se dilate.
Voilà,
enfin, et puis tout va très bien, Madame la Marquise.
Ah
et
tiens, là, c'est vrai. J'ai
et
pas
là,
pensé
vous en... avez exactement parce que tout va très bien, Madame la Marquise. C'est chanté en ce moment par Monsieur Balladur, dont c'est depuis 4 mois ça remplace la Marseillaise.
Alors on va parler de tout ça, Marc, Mathieu. Faut pas que je vous appelle Marc, puisque
j'ai plusieurs casquettes, plusieurs alias.
Oui, mais c'est tous des évangélistes, puisque c'est vous tous avez des évangélistes.
J'ai eu un Luc Blondel.
Voilà, vous avez été Luc Blondel, Mathieu.
Le seul, c'est Jean, mais parce que nous avions un directeur qui s'appelait Jean Blaiseau, et je ne voulais pas lui prendre son prénom.
Alors, il y a des informations rigolotes dont Victoria vous a fait grâce pendant le mini-journal, mais dont je voudrais quand même parler un petit peu. Par exemple, Mathieu, vous évoquiez le cas étrange de Monsieur Balladur qui, sans rien faire ou peu s'en faut, voit sa cote de popularité.
Balladur, c'est la démonstration dont s'étonne d'ailleurs la presse internationale, la presse française, au contraire, paraît, même celle qui était autrefois vaguement socialisante, être aux ordres de ce gouvernement absolument admirable, ne serait-ce que parce qu'il est le gouvernement favori de Monsieur Mitterrand. C'est donc un consensus complet ou quasiment complet, à part quelques empêcheurs de tourner en carré. Pour la raison pure et simple que depuis 4 mois, Monsieur Balladur chante fort bien d'ailleurs, avec un accent turc de derviche tourneur, que tout va très bien, Madame la Marquise. Le franc s'écroule, la maison brûle, mais ses collaborateurs, collaborateurs dans le sens noble.
Oui, on a bien compris.
Qui n'étaient pas nés à l'époque de la Bâtimonde, ces collaborateurs qui ont entre en âge moyen 35 ans, ce qui n'est absolument pas mal du tout. Si ce n'est que ce qui vient et malheureusement de se passer en Belgique démontre que 35 ans, c'est bien, mais c'est l'âge où on peut encore apprendre un certain nombre de choses, où l'expérience vous apprend un certain nombre de choses, et c'est pas un âge encore parfaitement idéal pour régner en période troublée.
Encore que M. Balladur n'a pas 35 ans, il est simplement entouré.
Mais c'est une preuve, je dirais pas que c'est la maladie de Alzheimer, bien que la deuxième partie du nom d'Alzheimer n'est pas désagréable. Mais c'est une mauvaise, de même que Giscard d'Estaing n'accepte pas de se regarder dans le miroir, je sais pas comment il se rase, mais il rase les murs, il ne se rase pas, vous savez qu'il n'accepte, il ne veut pas se voir vieillir, donc il se regarde plus dans les miroirs.
Comme je le comprends.
Balladur, lui, recherche la jeunesse, donc court après à rassembler un cabinet qui est composé donc de garçons de 35 ans, fort brillants, mais manquant d'expérience. On en a eu la démonstration avec son fameux emprunt, le fameux grand emprunt, le plus grand, le plus beau, qui est l'œuvre d'un qui est sorti tout armé du cerveau d'un de ses collaborateurs. C'est pas logique, parce que l'emprunt Balladur, il devrait s'appeler l'emprunt Suet. Bon, l'emprunt Suet, c'est moins, on connaît pas encore bien Monsieur Patrick Suet, mais c'est Patrick Suet qui est le directeur adjoint du cabinet, qui a eu donc l'idée de l'emprunt. On va l'appeler le grand emprunt, pourquoi pas le très grand emprunt, ça fera le TGV. Mais c'est lui aussi qui a eu l'idée donc de demander 40 milliards et qui a eu de placer la barre à 6%, si bien qu'à partir du moment où on a décidé de lancer cet emprunt, on a, par le même coup, entendu dire partout, dans toutes les banques, dans tous les journaux, que les taux d'intérêt descendraient très rapidement en dessous de 6%, de manière à faire considérer que les 6% que ferait l'emprunt était la panacée parfaite pour tous les Français, en essayant de leur pomper leur SICAV monétaire, qui, elle, à ce moment-là, rapportait environ 8% et qui, maintenant, rapporte 10%.
si bien ce que l'on a, qui sont les électeurs de Monsieur Balladur, qui seront qui ont été les électeurs de la, des dernières législatives et qui seront dans 2 ans les électeurs de la présidentielle où il espère, quoi qu'il en dise, être candidat. Mais ceux-là, se rappelleront sans doute assez rapidement le bon tour que leur a joué Monsieur Balladur et Monsieur Suet dans, en leur faisant arbitrer, quel arbitrage merveilleux, 10% appelé éventuellement à augmenter contre un 6% qui lui est fixe.
Alors ça c'est déjà c'est étonnant parce que mais on peut comprendre parce que il y a le charme du verbe, il y a tout ça donc
oui, mais en finance le charme du verbe ça oui. N'existe pas
mais où on comprend plus du tout c'est quand les Français sont contents, c'est-à-dire on leur dit écoutez vous débarrassez-vous vite de ce placement qui vous rapporte 10% et précipitez-vous sur un emprunt qui rapporte 6%, ils le font parce qu'ils sont patriotes et disciplinés.
Exactement.
Alors là d'ailleurs dans ce cas-là
on
c'est
dit,
pas
on dit discipliné, on dit autre
oui,
chose
oui, c'est
avant.
Plus court, il y a un mot plus court. Mais dans ce cas-là d'ailleurs c'est pas du tout mal d'être patriote. Tout le monde trouve ça formidable, le nationalisme, là, dans ce cas-là. Oui. C'est bien. Dans les autres cas, c'est moins bien.
Dans les autres cas, c'est moins bien.
Et alors, en plus, bon, maintenant, ils voient bien qu'ils se sont fait gruger.
Mais pas encore. Ils le verront. Ils mettent, vous savez, les Français mettent toujours longtemps. D'abord, depuis Richelieu et avant, mais enfin, Richelieu l'a dit, les Français sont très courent rapidement mettre la baïonnette au canon, courent à la bataille. Mais si la bataille dure un peu trop longtemps, ben, ils s'ennuient, même dans la gloire. Mmh. Il leur faut quelque chose d'autre. Pour l'instant, Balladur, c'est très bien. Tout le monde dit qu'il est bien. Surtout, il a une manière de manipuler la presse sans sembler la presser, je dirais, qui est tout à fait remarquable. Donc, il monte dans les sondages, mais j'ai pas rappelé la Roche-Tarpeyenne et le Capitole, oui. Ni Montaigne disant que le jeu monte haut, toi, sans derrière, pour parler poliment. Mais de haut le jour de la il est de toute manière avant de tenir et peut-être beaucoup plus rapidement que qu'Alice que ce soit.
Il y a peut-être une chose qui va finir ça, moi je crois, c'est l'extrême indifférence, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard de l'imaginer. On votait pour, alors ouvrez les droites, fermez les guillemets,
au dernier... Moi je serais voté pour le centre-gauche, gouvernement, mais
apparemment ils ont voté contre le gouvernement socialiste, contre tout le système, contre tous les gens qui... Le socialisme
n'en fait plus de temps.
Et tendre à voir un peu de ménage, notamment à la radio, à la télévision, pour virer tous les... Je sens que je vais devenir grossier, donc je me calme. Tous les gens qui font
qui causent
de la propagande pour le socialisme, le marxisme, le laxisme, la pourriture des idées depuis 12 ans. Eh ben pas du tout, ils sont toujours en poste. Et dans les affaires, c'est pareil. Mais là, récemment, c'est-à-dire pas plus tard qu'hier, il est intervenu ce que l'AFP appelle les premiers changements chez les PDG des groupes publics. Alors on se dit, enfin, le pouvoir de droite a décidé de virer tous les larbins de la gauche qui occupaient ces sinécures, et de les remplacer par des larbins de la droite. C'est bien leur tour, après tout, de prendre un peu de sous aux contribuables. Alors on apprend que, effectivement, il y a des gens qui sont partis, et, par exemple, il y avait monsieur Le Floch-Prigent, qui était à la tête de
Alpha-Aquitaine.
Alors monsieur Le Floch-Prigent, il incarne vraiment le haut fonctionnaire au service du pouvoir socialiste, à tel point qu'en 86, il avait été viré, mais littéralement viré de la présidence de Rhône Poulenc par monsieur Chirac, et il avait été réintégré dès 88 à la tête de Delph, avec les excuses du gouvernement, bien sûr. Et il était resté à la tête Delph jusqu'à ces jours-ci. Et là, comme la première fois, le gouvernement de droite dit à monsieur Le Floch-Prigent, écoutez, vous êtes vraiment trop socialiste, on peut pas vous supporter, donc on va vous foutre à la porte. Ça, c'est ce que les Français croient. C'est pas du tout ce qui se passe. On dit à monsieur Le Floch-Prigent, écoutez, est-ce que ça vous dérangerait pas de laisser la place de grand patron d'Alpha-Aquitaine à monsieur Philippe Jaffré, qui est un copain à nous, dit monsieur Balladur, mais en échange, comme vous avez été bien gentil de lui laisser la place, on va vous donner la place de patron de GDF, de Gaz de France. Alors monsieur Le Floch-Prigent, haut fonctionnaire qui a toujours été extrêmement serviable, extrêmement efficace au service du pouvoir socialiste, se retrouve, haut fonctionnaire extrêmement brillant et serviable et efficace au service du gouvernement de droite, à la tête de Gaz de France. Alors, bon, c'est dans la nature des choses. Ça a toujours été comme ça. Mais moi, je voudrais quand même poser une question. Il semblerait qu'en France, il y ait au minimum, officiellement, 3,5 millions de chômeurs. Dans la réalité, il y en a probablement 6 millions. Et est-ce que vraiment, monsieur Le Floch-Prigent est quelqu'un d'à ce point génial, incontournable, inévitable, indispensable à l'avenir du pays, pour que l'ayant privé, ou plutôt ayant privé le groupe Elf de ses lumières étincelantes, on le colle immédiatement à la tête d'un autre département qui est Gaz de France?
Je crois que c'est beaucoup un peu plus compliqué que ça. D'abord, Le Floch-Prigent est socialiste. Je dirais que c'est son unique défaut. Mais la raison, ça c'est ce que l'on voit en surface. La raison réelle dans les hautes sphères des, je dirais, les grandes, ne sont pas les sinécures, mais les grands pantouflages, ce sont toutes les grandes nationalisées, Alpha Aquitaine étant le plus beau magot à les pomper, si j'ose dire. Dans le cas d'une pétrolière, ça n'a rien de...
C'est la moindre des choses.
Le problème est, ce n'est pas une guerre entre socialistes et non-socialistes.
Eh ben oui, c'est bien ça.
C'est une guerre entre ancien élève de l'école des mines et ancien élève d'autres écoles que l'école des mines. Ce qu'on reproche à monsieur le Floch-Prigent, qui a été, je dois dire, un excellent patron à Elf Aquitaine, car il a pris un groupe qui allait à volo pour le remettre sur des rails, et Elf s'est très bien comporté depuis 88. Je crois que le Floch-Prigent il a été très bien reçu par les pétroliers, très mal reçu par le Brent Trust d'Elf, qui sort entièrement de l'école des mines. Or lui, qui est un type d'une extraction plus modeste, n'a pas fait l'école des mines, il a fait l'école des mines de Grenoble. C'est-à-dire l'horreur de la... C'est comme si, au lieu de faire l'ENA, il avait fait l'école primaire de Romorantin, ce qui est bon comme endroit pour la chasse, mais mal vu pour les hauts postes de l'État. Alors donc, leur idée était de trouver tous les moyens. Il a été protégé de la mafia de l'école des mines, qu'une belle mafia, l'école des mines, c'est merveilleux, surtout, mais ça ne prouve rien, parce que l'école des mines, quand vous avez l'école des mines, plus l'ENA, plus deux ou trois, vous avez Attali. Car le pur produit de toutes ces écoles réunies, c'est Attali, l'Attali de la Baird, et pas celui d'Air France.
Ils sont
jumeaux, ils se ressemblent, je sais pas lequel est né le premier. Mais lui donc est sorti premier ou deuxième de l'ENA. Avant, il avait fait les mines. Il a dû faire Centrale. Il a cumulé tout et le résultat, c'est un comble. Parlons clairement.
Un comble. C'est un comble. Et
comme vous dites.
Non, mais c'est en réalité c'est un brillant sujet parce que je voudrais quand même vous faire remarquer qu'il a été, puisqu'on parle de Monsieur Attali, il a été remercié de son poste de directeur ou de président, de la Baird.
C'est
admirable, ça d'ailleurs, comme métier, que si vous faites, je suis le patron de la Baird.
Bon.
Ah oui, c'est vous. C'est intéressant parce qu'on est dedans. Et donc il a été remercié, entre autres parce que il avait fait rembourser deux fois ses billets d'avion. Vous savez comment il faisait, c'est un vieux truc de journaliste, on fait prendre les billets d'avion.
Mais pas de directeur de journal.
Ah,
voilà,
oui.
C'est le problème.
On fait prendre les billets d'avion par une agence, on rapporte le billet, on se le fait rembourser par la comptabilité,
et l'agence envoie
la facture à payer à la comptabilité, qui n'y voit rien bien entendu, et même accessoirement, si on peut, entre-temps, on s'est fait inviter gratuitement par la compagnie.
Oui, mais généralement, les journalistes, en plus de faire ça, ne font pas changer le travertin par du marbre de Carrare dans l'entrée du journal.
Alors en tout cas, ça prouve quand même que faire Centrale, l'ENA, Ponts et Chaussées, l'école des mines, c'est pas totalement inutile parce qu'on apprend des bons trucs.
Ah oui, non mais exactement. Alors donc ils l'ont viré où? Au Gaz de France, c'est bon. Il faut dire que c'est pas aussi marrant
que d'être à la tête d'Elfe-Aquitaine. Mais cela dit, c'est une belle. Si on me le donnait, bien que sortant pas de l'école des mines, je l'accepterais. Je serais pété le gaz.
Alors voilà, c'est un exemple de ce qu'ils appellent le changement.
Oui, mais si je permets-moi, je coupe. Le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est que dès que vous changez. Les chaises mécaniques, c'est rien du tout. Les chaises musicales, c'est rien du tout à côté de ça. Car quand vous changez le floc Prigent, vous mettez à la place Jaffré du Crédit Agricole. Mais qui va remplacer Jaffré au Crédit Agricole? Vous mettez ensuite l'ancien Delph, vous le mettez à la tête du Gaz de France. Donc vous virez celui du Gaz de France qu'il faut mettre.
C'est les chaises musicales.
C'est les chaises musicales, mais c'est les chaises musicales à la dimension de l'Opéra Bastille. Vous voyez, l'orchestre de l'Opéra Bastille. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 2000 chaises qui vont valser.
Moi, je voudrais quand même poser une question. Je sais bien.
Sans compter ceux qu'on vira en filant d'énormes indemnités.
Voilà, c'est ça la question que j'allais poser. Parce que Monsieur Le Floch-Prigent, il est viré de la tête d'Elfe. Il a
donné sa démission.
Oui, d'accord, mais enfin, on sait comment ça se passe.
Avec une baïonnette rouillée dans le dos.
Dans le grand monde, on dit, monsieur, vous savez que si vous donnez votre démission, vous recevrez vos indemnités. Alors le gars donne sa démission, il prend ses indemnités. Moi, j'aimerais bien savoir si ces gens-là...
C'est-à-dire, ça gasse pour lui.
Parce qu'en 86, si Le Floch-Prigent a touché pour quitter le poste où il est, plutôt en 88, quand il a été débarqué de Rhône-Poulenc, est-ce qu'il a touché des indemnités avant d'entrer à Elf? Est-ce que maintenant il va toucher des indemnités d'Elf pour entrer à Gaz de France? Parce que à ce train-là, la place est bonne, quoi. On peut se faire virer.
Je regrette d'avoir pas fait l'école des mines de Grenoble.
Oui, ça, si j'avais su, j'aurais travaillé un peu plus sérieusement à l'école.
Sinon, il y a l'école universelle, qui est quand même pas mal.
Alors, dans le cadre du changement, j'ai dit déjà que, bon, vous savez que par exemple, M. Pasqua n'a pratiquement que des conseillers socialistes. Pratiquement que ça. Il a, des socialistes bontins. Il a Monsieur Castro, par exemple, qui est un ancien trotskiste, qui est pas rien.
Avec ce nom-là, qu'est-ce que qu'il soit.
Il a, oui, Castro, c'est la moindre des choses, vraiment. Il a, comme conseiller également, l'ancien prêtre, l'abbé Barrault.
Barrault, que j'ai bien connu.
Qui est socialiste.
Qui est même, qui est tout ce qu'on veut.
Oui, tout, mais enfin, qui a été socialiste.
Et lui, c'est...
Monsieur Barnier vient d'embaucher Madame Bouchardeau. Monsieur Balladur, oui, Madame Bouchardeau comme conseillère, vous savez ça. Oui. Monsieur Balladur a confié une mission à Monsieur Curien et à Monsieur l'autre, pas celui qui a la perruque, l'autre.
Lalonde.
Et Brice. Un auditeur nous envoie un petit mot en disant, le fils de Monsieur Maurice Faure, ministre de Premier ministre garde des Sceaux, excusez-moi, j'ai du mal à dire ça sans rigoler, de Mitterrand, parce qu'il est resté 3 semaines quand même, ou 3 mois, enfin, c'était. Donc le fils de Monsieur Maurice Faure vient d'entrer à Matignon comme conseiller spécial de Monsieur Balladur.
Vous avez mal gardé Maurice Faure lorsqu'il était...
Alors, je me demande si les électeurs français vont pas finir par se poser des questions sur l'usage qui est fait de leur suffrage. Mais on peut.
Cela dit, ou c'est quelqu'un a dit qu'ils ont la mémoire courte, ce qui est une bénédiction pour les hommes politiques.
Alors tout à l'heure, à propos de la mémoire courte, Victoria lisait une dépêche de l'AFP. Elle l'a lu un peu trop vite. Elle a appris que il y avait un mouvement qui était en train de se mettre en place pour solliciter une grâce présidentielle à l'avantage de Pétain. Et puis, en regardant de plus près, c'était pas du tout ça. C'était Pépétain, qui est l'animateur de l'association contre le tunnel du Somport.
Ah oui,
qui est allé faire un pied de nez aux gendarmes, et pour ça, il a pris quand même 9 mois de prison ferme.
Mais Pétain, c'est le...
Pététain, il s'appelle.
C'est Philippe Pétain, il signait comme ça.
Et il aurait mieux fait d'avoir un autre nom, je pense que c'est pour ça, à mon avis, qu'il est en taule pour 9 mois.
Oui, parce qu'il y avait quand même le pied fourchu d'une bête immonde sous son alpenstock.
Alors, dans la série des autres nouvelles drôles ou intéressantes, il y en a une que moi j'attendais depuis maintenant combien 4 mois bientôt, ou 3 mois et demi, c'est celle-là. Monsieur Balladur est mieux placé que Monsieur Chirac au second tour des élections présidentielles, selon un sondage CSA, et là suivent des initiales que je lis mal. Édouard Balladur obtiendrait de meilleurs résultats que Jacques Chirac lors d'un second tour d'élection présidentielle face à un candidat socialiste selon un sondage CSA réalisé pour l'émènement, j'arrive pas à lire, dans ce sondage
du mercredi
Oui, Édouard Balladur devance largement aussi bien Michel Rocard que Jacques Delors. Alors, ce qui est très amusant, c'est que vous souvenez certainement que j'avais fait un article, parce que je sais que vous lisez mes articles avec passion et mémoire, mon cher Mathieu Huguenet, et j'avais fait un papier après la désignation de Monsieur Édouard Balladur à Matignon, en disant le calcul de Chirac a été un mauvais calcul de laisser la place à Matignon à Édouard Balladur, parce que si Balladur réussit, c'est lui qui en recueillera les fruits, et s'il rate, on dira ben c'est parce que c'est l'homme qui avait été désigné par Chirac. Donc dans les deux cas, Chirac l'a dans le dos. Et ça n'a pas attendu. Moi, je pensais que ça durerait au moins 2 ans. Et ça n'a pas attendu 2 ans. Ça y est, M. Balladur est en tête dans les sondages devant Jacques Chirac. Autrement dit, c'est lui qui est devenu le chef naturel de la majorité, non seulement en tant que Premier ministre, mais aussi en tant que membre du RPR. Et j'ai appris en lisant la bonne presse ce matin que ils étaient même obligés d'avoir un monsieur bons offices. Ils ont été obligés de créer un monsieur bons offices
pour les relations entre l'hôtel de ville et Matignon.
Et c'est, paraît-il, Gérard Longuet.
Qui joue la route est in the long way.
Et alors, le journal qui révèle cette information dit que au RPR, on dit que Monsieur Gérard Longuet a accepté cette mission pour se placer comme troisième homme.
Pour la présidence de la République, mais pourquoi pas.
Voilà, c'est ça. Non, parce qu'il se dit que de toute façon, au poste où il est, que ce soit Balladur ou que ce soit Chirac, il est sûr d'être Premier ministre.
Mais il va faire une petite Balladur jusqu'à l'hôtel de ville.
Comme ça ne sera ni Balladur ni Chirac, Monsieur Longuet, à mon grand regret, parce que j'ai beaucoup d'amitié pour lui, ne sera jamais, hein.
Je
dis ça pas par hasard, Philippe. Je le dis pour de bonnes raisons. Comme j'ai beaucoup de sympathie pour Monsieur Longuet, c'est vrai, oui. Pourquoi c'est pas bien? Vous croyez que ça va lui poser des problèmes si je dis ça? Ah, c'est embêtant. Ça, j'aurais peut-être pas dû le dire, alors. Voilà. Et il sera jamais Premier ministre.
Longuet?
Oui.
Non,
parce que Chirac ne sera jamais
président de la République.
Président non plus. Mais c'est quand même amusant de voir.
Cela dit, je trouve tout de même que là, moi, j'ai pas une passion, vous savez très bien, pour Monsieur Chirac, mais le fait qu'il a désigné Balladur, je crois, il a agi en homme d'État, en ce sens qu'il a misé sur le long terme. Ce qui différencie finalement un homme politique d'un homme d'État, c'est qu'il a tendance à devoir regarder à l'horizon lointain au lieu de regarder le bout de ses chaussettes. En visant 2 ans, il savait pertinemment que l'autre allait se ramasser. Car il n'y a jamais un Premier ministre ou un président du Conseil. En France, les présidents du Conseil, autrefois, n'allaient jamais jusqu'à 2 ans, mais un Premier ministre qui soit populaire pendant 2 ans dans le contexte économique que nous avons. C'est impossible, à moins d'être un génie, mais si Balladur était un génie, ça serait.
Balladur est un génie, non, on va voir, il faut attendre là.
Oui, mais on
ça
a déjà...
Ça fait que 4 mois qu'il est là.
Oui, mais en 4 mois, il a tout même démontré le génie. Je tombais sur je suis passé devant la statue de Lyautey hier, il y avait une... Moi j'aime beaucoup Lyautey.
Qui n'aime pas.
Oui, et il y avait il y a une citation sur le monument qui est en face des Invalides, qui est l'action et la beauté de la vie. L'action, c'est tout. Or, ce que démontre Balladur depuis 4 mois, c'est tout sauf l'action.
Oui, mais c'est peut-être ce que les Français attendent.
Oui, mais ils attendent, bien entendu. Ils n'aiment pas beaucoup de remue-ménage, mais ils n'aiment pas beaucoup le chômage, ils n'aiment pas beaucoup le retour de l'inflation, ils n'aiment pas... Or, tout ça, c'est inéluctable.
Ah ben, on va voir. À propos de Lyautey, vous connaissez l'histoire admirable que raconte Figueras dans ses « Mémoires intempestives » ?
Peut-être.
Oui. Ah, il raconte une histoire superbe, c'est que Lyautey étant ministre de la guerre, ministre de la guerre pendant la guerre de 14-18, c'était en 16-17, oui. C'est sa fin 1916, début 1917. J'ai déjà raconté à ce micro, mais je résiste pas au plaisir de la répéter pour vous.
Je ne veux pas dire que j'étais occupé à rédiger ma lettre.
Et convoqué par la commission parlementaire de la guerre. Et Lyautey, donc, se voit interrogé, il est prié de faire un topo sur les opérations de guerre devant ces gens-là. Et il a absolument aucune confiance en eux parce que il est pas du tout républicain, il faut bien dire. Et alors son attitude finit par susciter des bavardages, des protestations, une espèce de tollé au sein de l'Assemblée qui commence à protester parce que le ministre manque du respect dû à cette haute assemblée représentative du peuple français. Et Lyautey à ce moment-là prend une colère et dit « Vos gueules, bande de cons !» Il quitte la tribune de l'Assemblée et il démissionne de son poste de ministre.
Un militaire qui parle comme un militaire.
C'est beau, non? Voilà.
Maintenant, on l'aurait envoyé en Bosnie-Herzégovine.
Ah, bah, c'est sûr.
Alors. Ce qui est notre Maroc, il faut bien dire.
Vous savez que j'ai une très très bonne nouvelle. La police allemande a trouvé
Solution. Allemande?
Oui, la police allemande a trouvé une solution pour protéger. Vous savez qu'en Allemagne, il y a la bête immonde est en train de ressurgir. Donc, contre la résurgence de la bête immonde qui incendie des appartements occupés par des familles turques en Allemagne...
Anciens alliés de l'Allemagne, pourtant.
Et oui, bien sûr. La police allemande a trouvé la solution. Alors, c'est une dépêche AFP qui nous l'apprend, et elle est radicale. Comment ils ont fait, les Allemands? La police allemande conseille aux étrangers d'avoir un extincteur chez eux.
Voilà. Ils disent pas la marque.
Non.
Parce qu'il faudrait acheter les actions de la société fabriquant des extincteurs en bourse.
Oui, c'est une bonne idée. Alors, dans la série des informations rigolotes, il y a là aussi la nomination du général Germanos, nommé numéro 2 de la force d'action rapide.
C'est un général allemand, non?
Non, c'est un général français.
C'était l'ancien patron du CIRPA.
C'était l'ancien patron du CIRPA, et on peut se réjouir qu'il ait été... C'était lui qui était le patron du CIRPA pendant la guerre du Golfe. C'était lui
qui diffusait
ces informations qui ne disaient rien. Ouais.
Mais il faudrait mettre aussi du côté allemand le Generalleutnant Frankos, qui pourrait s'entendre.
Alors, en tout cas, le général Germanos, qui a 52 ans, qui a été patron de la... Je crois qu'il a été patron du 2e REP.
Oui.
Et donc maintenant, il est placé à la tête, adjoint au général commandant la force d'action rapide phare en poste à Maison Lafitte, dans les Yvelines. C'est une bonne gâche. C'est quand même plus tranquille que Sarajevo. Il est remplacé par le général Gobillard à la tête de la 11e division parachutiste.
Gobillard.
J'imagine.
Ça va pas être du Gobillard.
La 11e vont raconter, mais je voudrais dire à quel point c'est une promotion méritée parce que le général Germanos est ce général qui, alors que notre ami Roger Olyndre avait envoyé une lettre au CIRPA à l'époque pour demander je crois qu'il avait demandé simplement des informations sur les carrières militaires sur les carrières militaires.
Secret défense.
Germanos avait envoyé une note signée de sa main au CIRPA en disant qu'il interdisait au CIRPA et au service de relations publiques des armées de communiquer la moindre information sous quelque forme que ce soit aux organisations d'anciens combattants dirigées par le Front, enfin représentant le Front National.
Plutôt que le CIRPA, ça s'appelait le CERPA.
Ouais. Alors donc, vous voyez, il est récompensé pour ça.
Je suis content pour lui.
Oui. Il y a encore une histoire.
Pierre Germanos, ça rime avec Soros. On viendra là-dessus.
Oui, on y revient. On va y revenir d'ailleurs très rapidement. Encore une information amusante. Trois policiers lyonnais ont été condamnés pour vol. Bon, ça c'est pas très amusant. Mais ce qui est très amusant, c'est quand on nous explique comment ça s'est passé. Alors, je lis donc la dépêche AFP pour ne pas qu'on croie que je raconte des histoires. Ils ont été condamnés avec sursis pour le vol d'un carton de pull-over saisi dans un camion volé qu'ils étaient chargés de surveiller. C'est-à-dire qu'il y a des bandes de malfaiteurs qui volent, vous savez, sur les autoroutes ou sur les parkings de routiers. Ils volent des camions. Ils ont été arrêtés. Le camion a été transporté au commissariat. On a dit aux policiers, il faut surveiller, c'est un camion volé, il faudrait pas qu'on nous le vole. Et les policiers ont volé ce qu'il y avait dedans. À qui se fier, franchement. Voilà. Paris a confirmé la médiation d'un journaliste turc auprès du PKK. Vous savez que le PKK, c'est
mais
le
je crois que c'était pas un truc PKK pour... oui, c'est une marque qui fait je sais plus quoi aussi.
En tout cas, là, il s'agit de l'organisation terroriste kurde qui est représentée à Paris. C'est formidable. Ils ont pignon sur rue à Paris et ils prennent des otages français en Turquie et personne.
Bah, comme ça, c'est via la liaison est directe et continue. C'est quand même plus pratique.
Voilà. Et alors, on a confirmé, le ministère des Affaires étrangères a confirmé que qu'un journaliste turc s'était proposé pour effectuer une médiation en vue de la libération de 4 touristes français enlevés par des Kurdes le 24 juillet dans l'est de la Turquie. Interrogé par l'AFP, un responsable du comité du Kurdistan, l'organisation satellite du PKK en Belgique, M. Stefkan Roj, a indiqué qu'une délégation conduite par M. Imset et comprenant notamment des représentants de l'organisation humanitaire Médecins du Monde et de l'organisation de défense des droits de l'homme en Turquie avait pris contact mardi avec le PKK dans la région où les touristes français avaient été enlevés. Au service du presse de Médecins du Monde à Paris, on a dit que le président de cette organisation, Monsieur Bernard Grandjean, qui a une longue expérience des questions kurdes, s'est rendu lundi soir en Turquie sans autre précision. Mais alors moi, je me pose une question. Qu'est-ce qu'elle fait, la rescapée de la planète des singes? Qu'est-ce qu'ils attendent pour l'envoyer là-bas? Parce qu'elle a des liens, elle, avec les gens du PKK.
Vous parlez de Daniel Mitterrand.
Daniel, elle est tout le temps fourrée chez eux. Elle est tout le temps... Alors aller leur faire des grâces, des gâteries, des mines... qu'est-ce qu'elle attend pour aller nous ramener pour une fois qu'elle pourrait servir à quelque chose?
Elle est peut-être en vacances en Somalie, je sais pas.
Ah, c'est possible. C'est possible. Et puis alors, je voudrais quand même dénoncer une fois de plus les intolérables campagnes qui sont conduites contre Bernard Tapie.
Alors, moi, c'est une chose qui parfois me...
C'est intolérable.
C'est intolérable. Intolérable.
Parce qu'il faudrait quand même que les Français se mettent dans la tête une fois pour toutes que Bernard Tapie est honnête. Point.
Le problème, c'est que ça se voit pas. Il est desservi. C'est le délit de sale figure.
Voilà. Mais le président de la République nous l'a dit. Le président de la République.
Il sait.
Il le sait puisqu'il est président de la République.
Sinon.
Hein, donc lui, il a accès à tout. Hein, s'il veut un dossier, s'il veut comment appelle-t-on ça
Carpet. Carpet, c'est un dossier en espagnol. Tapis, mais on y revient.
Oui. S'il veut un casier judiciaire, on lui envoie. Donc il l'a regardé.
On peut
tout le
même lui en fabriquer.
Le casier judiciaire de Monsieur Tapis, qui est vierge d'ailleurs. Il est complètement vierge. La preuve, c'est que quand Jean Edernallet l'a publié, il a été condamné. Alors, c'est bien qu'il est vierge. Bon, c'est bien qu'il n'y a rien dedans. Donc, le président de la République le sait, il nous a dit, Bernard Tapie est honnête. Il est intelligent, il est dynamique, il est brillant, il est gentil, il est beau, il a des chaussures.
C'est la fameuse tirade de Jules César de Shakespeare. Et pourtant, c'est un homme honnête. C'est comme ça que...
Voilà, c'est un homme honnête.
Il arrive à mal finir. L'ami Boethius.
Alors, malgré tout, malgré la démonstration évidente que Monsieur Tapie est honnête, eh ben, les journaux...
Il a plein d'alibi, il a plein d'alibi.
Des ministres. Il a un ministre comme alibi, un ministre socialiste. C'est un des rares qui soit pas poursuivi en ce moment. Donc
il le sera bientôt pour son témoignage.
Non, il faut pas. Non, c'est de la vérité. Un ministre socialiste ne peut pas mentir. Alors, mais là,
c'est une redondance.
C'est une autre histoire. L'avocat. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Bruno Floco, qui est l'ancien directeur général de Testu, a accusé Monsieur Tapie.
Mais faussement.
Faussement, bien sûr, faussement. Alors ils ont dit, nous réfutons toutes ces accusations en bloc, a déclaré au cours d'une conférence de presse M. Philippe Prudhomme, avocat au barreau de Béthune. Avocat au barreau de Béthune.
Et tout ça, avec vous, remarquez que tout ça se passe dans le Nord. Valenciennes, Béthune, tout ça, c'est le triangle des Bermudes.
Alors Maître Prudhomme était accompagné par Alain Souris, qui est également directeur financier de Bernard Tapie Finance. Monsieur Fellous a été retenu en province et n'a pas pu assister à la réunion de presse. Monsieur Fellous et Souris doivent être placés incessamment en mise en examen suite au dépôt des plaintes. La mise en examen, a ajouté l'avocat, va nous permettre d'avoir accès au dossier. Mais bien sûr,
fois que quelqu'un, Petiot demandait, on ne mettait pas en examen.
Les gars vont chez le juge.
Ça lui permettait de regarder le dossier.
Monsieur le juge, je vous en supplie, inculpez-moi. Enfin, maintenant, on dit.
Mettez-moi en examen.
Parce qu'il faut absolument que j'ai accès au dossier, puisque je n'ai rien à y voir. Donc, il faut que je sache ce qu'il y a dedans. Donc, une fois pour toutes, je le dis pour les journalistes et pour les juges qui nous écoutent, ne perdez pas votre temps. Tapie est innocent. C'est tout. Voilà. Puisque le président de la République l'a dit.
Le plus haut magistrat.
Puis pour finir, il y a l'affaire des, des magasins Virgin. Alors, la semaine dernière, la justice avait infligé 250 000 francs d'astreinte par ouverture le dimanche au magasin Virgin. Le patron de Virgin, qui s'appelle je sais plus comment, mais ça n'a pas d'importance, a dit... 250 000 francs, je m'en fous, c'est à peu près le dixième de ce que je gagne un dimanche, donc je vous en emmène à la campagne, et j'ouvrirai quand même le dimanche. Alors la justice a dit, ah c'est comme ça, bon alors, 4 millions de francs par dimanche, c'est assez cher pour que vous restiez fermé. Et il a dit, 4 millions, non, je m'en fous, je continue à rester ouvert. Bon. Alors, moi ce que je propose, je trouve cette histoire complètement idiote en fait, parce que...
Et vous savez à qui sont donnés les 4 millions?
Bah à la CGT.
Oui, à la CGT. Ouais.
Et oui, c'est ça. Mais en réalité, ça serait tellement plus simple de dire, monsieur, appelons-le monsieur Virgin, vous voulez rester ouvert le dimanche? Oui. Vous avez combien d'employés dans votre magasin? Alors il dirait, je sais pas, j'en ai 400. Eh ben, vous allez leur donner une prime par dimanche, 10 000 francs. Les ouvriers seraient contents. Monsieur Virgin serait content. Tout le monde serait content. Les clients seraient ravis. Enfin, ça serait formidable. 10 000 francs par dimanche. Il pourrait même embaucher d'autres ouvriers et créer des emplois. Au lieu de quoi, on va lui faire payer de l'argent à la CGT, dont tout le monde sait que c'est un syndicat qui n'a pas besoin d'argent, puisqu'il est...
Mais ce que je comprends pas dans son cas, donc c'est 4 millions. Pourquoi il a pas sous... C'est le préfet de Paris qui lui a interdit d'ouvrir le dimanche.
Oui, c'est peut-être parce que c'est pas possible. Alors, quelques messages. Une auditrice nous fait remarquer, effectivement, j'ai oublié, dans la série des grands changements imposés par ce gouvernement de droite, le ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelle comment déjà?
Le ministre de l'Éducation nationale, c'est monsieur Bérou.
Bérou.
Le ministre de l'Éducation, qui n'est plus national du tout d'ailleurs, vient d'engager comme maître de conférence monsieur Gesmar Alain.
Ah oui,
Gesmar
oui.
Alain, c'était le célèbre agitateur
maoïste. Le con-bandit national.
Vous savez que ce qu'on demande aux instituteurs maintenant, c'est la socialisation des enfants.
Oui, monsieur Vieux.
Les professeurs d'école.
Les professeurs d'école. Il y a encore beaucoup d'instituteurs.
Alors, un auditeur nous fait remarquer que le gaz de France ne porte pas bonheur. Considérez le précédent Bérégovoy, nous dit-il. On signale ça, monsieur...
On peut suicider au gaz de France.
Le truc prison. Monsieur Huguenet ne nous a pas rappelé, il a eu tort, que monsieur le Floprigent était l'homme qui avait mis en œuvre toutes les nationalisations de la gauche en 80-82, ce qui est vrai. J'avais oublié ça aussi. Monsieur Jacques Attali est sorti, nous dit un auditeur, major de Polytechnique, major des mines et apparemment dans la botte de l'État.
Et sous-lieutenant.
Et son professeur était Maurice Allais. Comme quoi, hein. Voilà.
Monsieur... Donc comme quoi les diplômes ne signifient pas grand-chose, tout dépend de ce qu'on en fait et de ce qu'on a derrière la tête quand on commence à essayer de les avoir.
Et un auditeur nous dit, non, vous vous trompez, chez monsieur Pasqua, dans le cabinet Pasqua, ils sont pas tous socialistes, il y a aussi des francs-maçons. Ce qui est parfaitement vrai.
Là, on peut cumuler. Hein.
Voilà. Ah oui, non, ça je peux pas le lire parce que ça serait exactement la meilleure solution pour que ça cesse. Je vous dirai hors antenne de quoi il s'agit, chers auditeurs. Alors pour finir, je voudrais donner une information qui me paraît capitale parce que on a tous beaucoup d'enfants. Et maintenant il est à peu près démontré d'une façon définitive que les jeux vidéo utilisés à trop forte dose rendent épileptiques au point que on a obligé les vendeurs et les fabricants de jeux vidéo à indiquer sur une étiquette la chose suivante: éviter de jouer en cas de manque ou de fatigue, faire des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.
Comme sur les autoroutes.
Oui, sauf que 10 à 15 minutes toutes les heures, c'est beaucoup. Oui, ça vous empêche pas de fumer, c'est vrai, Philippe, c'est vrai. Ben oui, d'accord, mais enfin au moins vous savez que vous vous suicidez quand vous allumez une cigarette. Donc voilà, les enfants, quand ils jouent, il faut savoir, les gambois, tous ces jeux qui, de toute façon, les abrutissent, il n'y a qu'à regarder la tête qu'ils ont quand ils jouent à ça pour comprendre que ça ne peut pas leur faire de bien. En plus, ça risque de déclencher...
Mais en plus, il y a des adultes qui jouent à ça.
Oui, mais alors là...
Il n'y a plus rien à faire.
Il n'y a plus qu'à tirer les chaînes. Alors, Mathieu Huguenet, vous rappelle que vous êtes le patron de La Lettre Bleue et que vous êtes le rédacteur en chef de Minute, chargé des questions financières, budgétaires, boursières, et
d'où mon immense
placement, fortune. D'où votre immense fortune. Oui, ça encore qu'il faudra qu'on en parle un jour, parce que moi j'ai toujours bien rigolé en voyant les chroniqueurs épiques, parce que j'en ai connu quelques-uns, notamment André Théron et Saint-Aubin, et j'ai remarqué que c'est des gens qui étaient pas milliardaires.
Non, c'est déontologique, c'est des gens qui ne peuvent pas jouer, c'est contraire à la...
C'est ça.
Voilà.
Non, ils jouent pas les bons chevaux parce qu'ils les connaissent.
Oui, mais il y a aussi autre chose, qui est le syndrome du chirurgien. Je veux dire, il est toujours facile de conseiller aux tiers, et puis de passer soi-même à l'acte. C'est comme le chirurgien qui a réussi les opérations à la cœur ouvert magnifique, il les réussira très mal sur lui-même.
Ça, c'est sûr. Bon, alors, soyons clairs et brefs, si vous le voulez bien.
Et intelligents, parce qu'il nous sera facile.
Tant que faire se peut, mais pour nous, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez-vous me dire, comme disait Pierre Dac,
oui.
Pouvez-vous me dire ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que c'est que cette crise monétaire? Est-ce qu'on peut l'expliquer, la résumer en peu de mots, la rendre accessible et compréhensible?
Bon, je crois qu'il y a plus... extrêmement compliqué et relativement simple. Le serpent monétaire est une... je dirais... n'est pas viable, les serpents. Les possibilités de... compte tenu des dichotomies existantes, mots rares, entre les diverses économies à l'intérieur du marché commun. Donc les monnaies, jusqu'à présent, ne pouvaient évoluer à l'intérieur du serpent. Je veux dire, les serpents, c'est un peu comme une... vous savez, c'est autrefois on avait pour aller chercher des bouteilles de lait ou de vin, des petits containers dans lesquels on mettait les bouteilles, et puis c'était à les serrer, elles bougeaient pas. Si vous les desserrez, si vous mettez des bouteilles trop petites ou dans ces containers, elles bougent, elles se cassent. Bon, alors c'est les monnaies donc ne pouvaient évoluer, varier que de 2-5%, en fait pas exactement 2-5% à la baisse et 2-5% à la hausse, qui ramenait 5%. En fait, c'est pas 2,5 et 2,5, c'est 2,314.
Oui, mais enfin, simplifiant,
disons 2,800.
Alors, ça veut dire, pardonnez-moi, je vais vous interrompre souvent, parce qu'il faut bien que ce soit clair. Moi, je voudrais arriver à comprendre quand même. Ça veut dire que, si par exemple, le franc perd 3%, les autres monnaies sont obligées de suivre ou d'intervenir?
Non, de réinjecter, d'intervenir en rachetant la monnaie.
En rachetant
la monnaie
du franc.
Attaquée, ou que ce soit du franc, de la couronne danoise qui est attaquée en ce moment, de manière à pouvoir rééquilibrer les monnaies à l'intérieur. Je veux dire qu'on règle l'avance d'une voiture.
C'est ça, d'accord.
Mais ça coûte de l'argent. Et en plus, comme... Donc, tout ça serait idéal si les économies de chacun des 12 pays de la communauté étaient totalement identiques. Donc, on a ce qui est valable pour la. Pourquoi la Hollande, les Pays-Bas et l'Allemagne sont à peu près dans un état voisin avec leurs deux monnaies qui sont liées l'une à l'autre, sont deux économies assez prospères. Si ce n'est, et je l'ai conseillé la semaine dernière dans ma lettre, tant qu'il vaut mieux parier sur le florin que de parier sur le marque, tout simplement parce que le florin ou le gulden batave, la Hollande n'a pas de problème économique grave. Si ce n'est des lourdeurs sociales importantes qui font que la sécurité sociale française à côté de la sécurité sociale hollandaise, c'est une plaisanterie.
C'est un oasis de prospérité.
Exactement. Étant donné les prestations qu'il paye, tandis que l'Allemagne, elle, a sa réunification, le poids de sa réunification qui lui coûte monstrueusement cher et qui fait que l'Allemagne est moins l'Allemagne qu'elle le fut. Tout en étant plus grande, elle est moins riche. Dans 40 ans, ça sera beaucoup mieux pour elle. Donc on a des économies dissemblables et qui fait que leurs monnaies ne sont pas à l'image de leur économie. Et comme les spéculateurs internationaux, qui ne sont pas M. Soros est monté par...
Alors ça, on va en parler, si
mais
vous voulez,
mais
après.
C'est un personnage médiatique monté par les journalistes, qui se monte lui-même, mais il n'est pas important. Il gagne sans doute beaucoup moins d'argent qu'il ne dit qu'il en gagne. D'ailleurs, il est apparu au mois de septembre dernier en spéculant sur la livre. Où il a gagné beaucoup d'argent, mais pas les milliards de milliards de milliards, comme il...
Ceux qui spéculent, ce sont les grands fonds de retraite britanniques qui manient d'énormes capitaux.
Maxwell, ça c'était là.
Non, pas Maxwell. Les fonds de retraite britanniques, c'est le fonds des chemins de fer, c'est le fonds qui assure les retraites, qui gère je dirais, ils ont des liquidités gigantesques et avec lesquelles ils jouent d'une manière, ils ne spéculent pas, ils jouent comme ils ont beaucoup d'argent, et bien ils jouent sur la baisse de telle ou telle monnaie, mais comme ces capitaux sont énormes, plus les gestionnaires de fortune du monde entier. Les gros gestionnaires de fortune, comme Safra, par exemple, qui est la Republic National Bank of New York, qui met des sommes énormes, comme la Banque de la Suisse italienne également, comme tous ces gros gestionnaires de fortune qui ont placé l'argent eux-mêmes d'énormes fortunes qui leur ont confié leur liquidité et qui les placent au jour le jour. On gagne beaucoup d'argent, non pas en achetant des accords ou en achetant des PSA, mais en plaçant pour une journée, deux jours, trois jours ou quatre jours sur des marchés qui évoluent, qui vous font gagner un point ou deux points, ou un point et demi ou deux points dans une journée. Mais dans une journée, c'est des milliards que vous avez mis, deux points sur un milliard, ça fait beaucoup d'argent.
Ça veut dire qu'on multiplie tous les trois mois, on double tous les trois mois.
Exactement. Alors, Soros, c'est une goutte d'eau, c'est celui dont les journalistes se servent parce que c'est une bonne histoire, mais avant, je veux dire, c'est comme de croire que certains avaient écrit que Paul Loos Schlitzer était un énorme trader sur le rien. Je veux dire, Schlitzer, il manie des nègres ou des Africains, on dit maintenant, je crois, pour éclaircir ses bouquins.
Des crayons de couleur, ça s'appelle.
Ouais, crayons de couleur. Mais c'est rien du tout. Il a commencé à être, c'est un vendeur de porte-clés, Schlitzer.
Oui,
c'est comme ça qu'il a commencé. Il a continuer.
C'est pas une tare d'être vendeur de porte-clés.
C'est très bien, les porte-clés, c'est très utile. Et Scooby-Doo et les trucs, mais ça dépasse pas ça. C'est pas... Lui, c'est vraiment encore à l'échelon, six échelons en dessous de Soros. Mais, donc, vous avez... C'est le problème. Pourquoi on attaque le franc plutôt que d'attaquer le rutabaga lituanien? C'est que le rutabaga lituanien est inattaquable, bien sûr. Non, mais c'est une raison simple, c'est Monsieur Balladur. La politique du franc fort, c'est d'avoir un franc qui est surévalué par rapport à l'état de l'économie française. Or, l'économie française, quoi qu'en dise en tout cas M. Balladur, comme le disait, quoi qu'en dise auparavant M. Bérégovoy, va mal. Le meilleur indice de la santé d'une économie, c'est le taux de chômage. On a un taux de chômage très important, je veux dire, deux fois et demi plus important que celui de l'Allemagne. C'est la preuve que les affaires vont mal, que les sociétés vont mal, que les affaires vont mal, elles ne payent pas leurs dettes sur des sociétés sous-traitantes, ces sous-traitantes répercutent, et c'est le chien qui arrive finalement à se mordre la queue, et ça lui fait mal. Donc, contre le chômage, Monsieur Balladur ne fait rien. Maintient élevé le franc artificiellement, et comme les capitaux flottants, pourquoi appeler ça la spéculation? Les capitaux flottants, ils ont des capitaux et ils veulent les faire fructifier. Les capitaux flottants voient cette différence entre l'état de l'économie française et la surévaluation de la monnaie française. Et comme dans le monde où nous vivons, les choses anormales ne durent jamais. Donc il est évident qu'un jour ou l'autre, le franc va devoir être rabaissé et ramené à la valeur de l'économie française.
Alors, est-ce que j'ai bien compris? Ça veut dire que ces gens-là se disent, la situation de l'économie française est tellement mauvaise qu'inévitablement...
Elle est plus mauvaise que la... Elle ne correspond pas à la valeur du franc.
C'est ça. Donc, forcément, le franc... à un moment va bouger, c'est-à-dire que le gouvernement va être obligé de baisser les taux d'intérêt pour permettre aux entreprises d'avoir un petit peu plus d'argent pour essayer de s'en sortir.
Oui, mais il peut pas, parce qu'en même temps, il faut, pour soutenir le franc, il peut pas trop baisser les taux d'intérêt, il faut qu'ils aient tendance plutôt à aller. Pourquoi ils ont augmenté les taux d'intérêt?
Alors, voilà.
Donc, en augmentant le taux d'intérêt, on rend les entreprises françaises plus, leur endettement leur coûte plus cher. C'est un cercle vicieux.
monsieur duquel ils ne peuvent absolument pas sortir autrement que par une dévaluation. C'est un peu, je veux dire, c'est très, d'une manière tout à fait semblable à une action en bourse qui est, dont le ratio cours sur bénéfice prévisionnel, par exemple, est de 35 fois. C'est-à-dire que son prix en bourse ne correspond pas à la valeur de l'affaire. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous prenez votre bénéfice, vous sortez vite.
Bien sûr.
Oui, comme vous êtes beaucoup,
ça
va se casser la figure. Et quand vous êtes beaucoup à se dire que ça va se casser, vous sortez tous. Mais le lendemain, l'action qui avait un paire de 35, elle est redescendue et elle a un paire de 14. Mmh. Alors qu'elle en vaut peut-être 5 ou 6. C'est exactement la même chose. Il parie donc mes paris, je veux dire, en quasiment sûr. Bon, ça n'a pas marché cette fois-ci, mais ça marchera là. Et maintenant, ça va marcher à l'intérieur du serpent d'une manière tout à fait normale. Car baisser de 16%, ce qui sera permis au franc, c'est déjà considérable.
Alors,
et quand vous gagnez 16% sur 3 milliards, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent.
Mais quand un auditeur nous pose la question, il dit, comment pouvez-vous expliquer, après ce que vous venez de nous dire, que sans intervention des banques centrales, le franc soit remonté par rapport aux marques pour coter pratiquement le plafond de la marge du SME prévu avant dimanche? Quelles sont les manipulations là?
D'une part, c'est tout à fait inexact que les banques centrales soient intervenues. Les banques centrales...
Non, il est bien sans intervention des banques centrales.
Non, mais les banques centrales sont intervenues parce qu'elles interviennent. Hier ou avant-hier, elles sont intervenues, mais elles ne disent pas toujours qu'elles interviennent. Lorsqu'elles interviennent, quand elles interviennent massivement, et puis il y a des allers-retours. Je veux dire, comme cette fois-ci, la dévaluation de fait ne s'est pas effectuée, il est intéressant de reprendre des francs pour refaire des allers-retours. Donc c'est sur ce principe de l'aller-retour rapide dans la journée ou sous deux jours ou trois jours qui explique ce flux. Et puis brusquement, je veux dire, c'est qu'une écluse qui se remplit et puis elle se vide et tout redescend.
Bon, alors il y a une question qui paraît primaire, mais enfin qu'on a le droit de poser. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de dire, bon, on bloque les cours, voilà, on bloque les parités monétaires, et on n'y touche plus. C'est pas la peine de changer vos francs, puisque de toute façon, ils vous seront...
On change le nom du franc, on l'appelle des roubles, et on arrivera on change le drapeau, on a un drapeau rouge, et puis on fait que le franc ne vaut cette fois-ci plus rien du tout, puisqu'il n'est plus convertible.
C'est-à-dire, ça revient à supprimer la convertibilité du franc, c'est une monnaie intérieure.
C'est une monnaie intérieure, et on fait du troc,
Comment ça s'appelle? Des courries, non? C'était comme ça.
Les corries, on peut se les mettre autour du cou. Oui. Tandis que des francs,
les francs, c'est pas très...
Surtout les francs papier. Mais partant de francs, on peut s'en faire des... On peut les... Ça remplace le papier journal.
Bon, l'autre question qui se pose, parce que vous êtes un journaliste financier, mais vous êtes aussi un journaliste politique. Alors, il y a quand même une question, moi, qui me taraude. Le gouvernement actuel, en tout cas M. Balladur, ne pouvait pas ignorer la situation quand il a revendiqué la succession de M. Bérégovoy. Qu'est-ce qui peut conduire ces gens-là à prendre en main une situation alors qu'ils savent très bien, ils sont suffisamment intelligents pour ça, ils ont les éléments d'appréciation de la situation, ils savent très bien qu'ils n'y pourront rien faire?
Une réponse tout simple, c'est agréable d'être Premier ministre.
Oui, c'est agréable d'être Premier ministre dans un pays prospère.
C'est agréable, sinon il n'y aurait jamais de Premier ministre dans les pays qui ne sont pas prospères.
Mais vous n'avez pas l'impression qu'il avait une idée? Il s'est dit, bon, on va corriger...
On va voir, et puis on va naviguer au plus près, et on va voir comment ça va se passer. Et en plus, on est plus intelligent que les autres, c'est toujours l'éternel problème.
Alors cela dit, en un mois, ou un peu plus, ils ont... le gouvernement social et le nouveau gouvernement a fait baisser combien, 4 ou 5 fois ou 6 fois les taux d'intérêt, alors que tous les spécialistes disaient, si à faire ça, évidemment, on a l'impression de donner un coup de fouet à l'économie nationale, ce qui n'a abouti à rien d'ailleurs, parce que c'est bien vrai que le patronat a bénéficié de ces baisses que les entreprises ont bénéficié de ces baisses du taux d'intérêt, mais elles n'en ont pas du tout profité pour embaucher, puisque chômage a continué plus bas.
Pour une raison simple, c'est que les patrons, eux, savent bien que ça va mal. Pourquoi ils savent que ça va mal? C'est qu'ils savent qu'ils vendent
moins qu'ils ne vendaient, que l'argent ne rentre pas, parce que les entreprises auxquelles, vous savez, 30 jours, fin de mois, 60 jours, etc., tout traîne, les paiements traînent dans les entreprises, l'argent, ils ont de l'argent sorti et peu d'argent qui rentre, ils ne peuvent pas, à part quelques créneaux bien déterminés, mais la chaussure marche plus ou moins bien, parce qu'ils vont, tiens, c'est acheter du groupe André,
mais enfin. Mais attendez, pas... à la fin, je vais vous demander ce qu'il faut acheter pour ceux qui ont encore 3 sous, ce qui n'est pas mon cas, je m'empresse de le dire, mais enfin, ça me ferait plaisir de faire gagner un peu d'argent aux auditeurs de Radio Courtoisie, si c'est possible. Mais, comment expliquez-vous, si toutefois il y a une explication, que le gouvernement arrivant aux affaires, le nouveau gouvernement arrivant aux affaires, il ait pris cette décision de diminuer les taux d'intérêt, alors qu'il savait que ça allait engager rapidement une spéculation sur le franc, tout simplement parce que les détenteurs de francs allaient se retirer en disant que ça leur rapportait moins que s'ils avaient du marque.
Donc, oui, mais ils l'ont pas fait longtemps. La preuve, c'est que maintenant, les taux court terme sont montés au-dessus.
C'est vrai, mais ils l'ont fait juste le temps d'affoler les spéculateurs.
Bien sûr, non, mais pour préparer, en plus, ils préparaient leur fameux, très rapidement, ils ont eu l'idée de cet emprunt, parce que l'emprunt, c'est quoi? Quand les caisses sont vides, on emprunte, et on emprunte. Vous, quand vous allez emprunter, vous empruntez au taux du marché. Mmh. Le gouvernement peut s'arranger, lui, à fabriquer se tricoter des taux qui l'avantagent. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chez votre banquier et dire « je veux acheter une cuisinière et j'emprunte tant », il vous dit « c'est tant ». Là, c'est vous qui dites « je vous emprunte à tant ». Moi, ça m'arrange que ce soit... Bon, eux, ça les arrangeait d'emprunter à 6%, alors que le marché était à 7,8%.
Alors comment expliquez-vous que cet emprunt qui a été lancé à des conditions qui n'étaient pas intéressantes, vous l'avez dit
non,
tout à l'heure,
et
remporté un tel succès qu'il ait permis de ramasser 3 fois la somme initialement perdue?
Vous avez eu votre argent dans une banque, le peu d'argent que vous avez est dans une banque.
Dans une banque, j'ai un trou. Moi, j'ai un camion de transport de trous. Oui,
mais vous avez eu votre... à moins que vous soyez vraiment très mal vu de votre banquier vous a téléphoné ou vous avez...
Non,
mais vous êtes un cas.
Vous plaisantez. Est-ce que vous voulez acheter, avec votre découverte, est-ce que vous voulez acheter un emprunt Bladur? Oui, pourquoi pas.
Mais qui que ce soit, toute petite fortune, du moins pas un trou, mais qui soit dans le noir au lieu d'être dans le rouge, mais je crois que c'est une déformation des studios de radio, puisque le rouge, ça veut dire que ça marche. Tout le monde, je veux dire, moi, j'ai peu, mais dès que vous avez un maravedi dans une banque, ils vous ont écrit, ils vous ont téléphoné, vous avez un livret de caisse d'épargne, ils vous téléphonent de la caisse d'épargne pour vous demander que penseriez-vous de gagner plus que votre livret. Je veux dire, il y a eu un matraquage de toutes les banques qui a été absolument qui ne s'est jamais produit, ni du temps des socialistes, ni du temps de la première cohabitation, ni avant, ni jamais. Je dirais, peut-être du temps de... le Pinet n'a pas eu besoin de toutes ces de tout ce matraquage, non pas médiatique, mais un matraquage bancaire. Car il fallait que les banques soient bien vues, ils ont eu des instructions, c'est à celles qui feraient le plus... Je veux dire, c'est exactement comme les sergents recruteurs sous l'Ancien Régime. Plus vous ramènerez de picaillons, plus on vous regardera d'un bon œil dans vos problèmes avec l'administration.
Mais je repose la question. Pourquoi les Français ont-ils marché? Qu'est-ce qui s'est passé psychologiquement?
Parce qu'ils aiment Balladur, parce que, encore une fois, on revient à ce que je disais au début. Balladur, d'abord, il a une façon de parler qui est agréable aux Français. Il leur parle, il les caresse dans le sens du poil. En plus, il cache, à mon sens, sa personnalité qui n'est pas celle-là, parce que le vrai Balladur, on l'a vu dans la première cohabitation, c'est le côté sûr de lui et dominateur. Là, comme il est intelligent, il a compris qu'il fallait, au contraire, mettre un profil bas. Mais donc, il se trouve qu'il y a une équation, ça marche entre les Français et Balladur, qui leur met du poivre dans les yeux, et les autres, ils ont du poivre dans les yeux, mais ils pleurent pas, ils sont contents.
Un auditeur nous dit, les électeurs de M. Balladur ont souscrit à l'emprunt par civisme, et d'ailleurs, par civisme, ils seraient prêts à souscrire à un nouvel emprunt russe.
Oui, exactement, mais, c'est le même principe.
On sait que le civisme est la chose du monde la moins partagée en France. C'est pas, il y a deux mots qui ont perdu absolument
si
tout sens.
Si ce n'est la preuve, ils ont eu un...
Voilà, alors, il y a deux mots qui ont perdu tout sens en France, c'est honneur et civisme. Plus personne n'est civique, parce que d'abord, quand on voit la classe politique littéralement gangrénée par la crapulerie, la classe médiatique constituée par des voyous et des corrompus...
Quelques exceptions.
Avec des exceptions, bien sûr, dont nous deux.
Des seuls.
Et quelques autres. Non, il faut dire... Et un autre, on dira pas le nom à l'antenne. Bon... quand on voit ça, on se dit que les gens qui voudraient faire preuve de civisme seraient vraiment des monomaniaques. Or là, apparemment, c'est vrai, la seule explication, c'est une explication
patriotique. Oui, non, mais ce qui est d'autant plus, je dirais, vraiment dégueulasse, c'est que beaucoup de petites gens qui ont vidé leur bas de laine, et qui est pire que vider leur bas de laine, ont vidé leur sicave monétaire.
Justement, Victoria, vous avez acheté du baladur, vous?
Moi, j'ai pas de sous.
Elle a pas de fric avec tout ce qu'elle est bille, qu'elle a piqué aux élèves pendant 30 ans de carrière et qu'elle a revendu.
Est-ce que les sicaves, on n'a pas modifié les sicaves qui sont moins intéressantes?
Non, elles sont tout aussi intéressantes. On a modifié le plafond. On a modifié le plafond de cession. Le plafond de cession a été ramené et deux fois plus bas. Mais le plafond de cession, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous commencez à être imposé à 18,6%, 18,1%. À partir de 180 et quelques mille francs de cession dans l'année pour un célibataire, et de 300 et quelques mille, ce qui fait déjà de l'argent. Et une fois que vous avez dépassé ce plafond, attention, vous avez dépassé ce plafond, vous ne payez pas 18 et quelques.
Sur la totalité, monsieur?
Si. Vous payez, non, ils sont
pas sur la marge, mais sur la totalité.
Dès que vous avez par exemple, CD vendu pour 335,846 francs, qui est le plafond, quelque chose comme ça. Quand vous avez vendu un franc supplémentaire, vous payez, non pas sur le franc supplémentaire que vous avez vendu, mais vous payez sur tous les 300 et quelques mille francs.
C'est pas mal. Ils sont pas idiots, quand même.
Ils sont pas complètement idiots.
C'est rassurant.
Mais cela dit, si vous vendez en fin d'année pour racheter le premier jour de l'année, les plus-values sont passées, et c'est ce que tout le monde fait. À ce moment-là, les plus-values ont été épongées, et vous revenez vierge, si j'ose dire, au 1er janvier suivant.
Alors, il y a beaucoup d'appels d'auditeurs qui posent ou qui donnent des avis ou qui posent des questions très précises. Par exemple, un auditeur pose une question que j'aurais voulu vous poser aussi, et donc je vais le faire. Qu'est-ce que c'est que le taux lombard dont on parle tout le temps?
C'est les lombards. Pourquoi lombards? C'est lombards parce que c'est les banques.
C'est les
taux de banque, de banque à banque.
En réalité, le taux de base minimum
des arbitrages de banque à banque.
Mmh. Ok. Un auditeur nous pose la question à 150 milliards de dollars. Il nous dit comment peut-on relancer l'économie alors que les Français ont de moins en moins d'argent? Alors, est-ce qu'il y a une solution?
C'est le problème. Non, le principal problème, c'est que c'est pas facile. Car si c'était facile, même mon roi, qui est pas du Nord, mais qui est de Mongolie, il aurait fait. Le problème, c'est que c'est très très difficile. On sait que ça va mal, et il y a qu'à quoi. Il faut aider les entreprises, mais sans désespérer, sans augmenter le nombre de chômeurs, et puis sans matraquer les Français, sinon ils vous rééliront pas. Donc il faut un système un peu dirigiste, dont les Français ne veulent pas. C'est-à-dire que en cas de panique, il faut mettre un peu d'ordre dans la maison. Or, personne, à part peut-être un ou deux hommes politiques, ne sont prêts à vouloir mettre de l'ordre dans la maison en instituant de l'ordre.
C'est pas très rassurant ce que vous nous dites.
Non, c'est pas rassurant.
Alors, est-ce que vous pouvez quand même... Alors, un auditeur dit, mais... après, voilà, lui, il dit, voilà la solution. Après le départ de Bérégovoy, le départ, d'ailleurs, le mot est faible, il fallait dévaluer le franc de 30%, ça aurait donné un coup de fouet à l'économie. Alors ça, c'est la thèse, effectivement, de...
C'est la thèse sadomaso.
La thèse sadomaso, c'est la thèse seguino-chevènementiste. Il fallait dévaluer. Est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là?
30%, c'est un peu beaucoup.
Oui, pour le taux, on peut discuter.
C'est un peu beaucoup, mais d'évaluer n'est pas une mauvaise chose. D'abord, ça remettrait les pendules à l'heure. D'abord, ferait comprendre aux Français que ça va mal. Parce qu'ils n'ont pas l'impression que ça va mal. Ils ont l'impression que le franc est fort. Donc, si le franc est fort, on a des dollars, on roule les mécaniques et on est les champions. On est une monnaie de référence. On est pas une monnaie de référence. D'abord, on a peu de références quand on a le nombre de chômeurs que nous avons. Alors, si on dévalue le franc, c'est très bon pour l'exportation. Donc, comme on exporte mieux, on peut embaucher un peu pour, mais tout ça est très long à se mettre en marche. Les sociétés peuvent mettre au chômage rapidement des employés, des ouvriers, etc. Mais elles sont beaucoup plus lentes à voir l'argent revenir et à décider de réembaucher. Je veux dire, c'est comme pour un journal. Un journal perd rapidement des lecteurs, il en gagne plus lentement.
Plus lentement,
ouais. Mais pour et c'est valable pour toutes les affaires, sauf peut-être moins pour les affaires de services qui sont une question de mode, etc. Mais c'est donc il est évident qu'une dévaluation n'aurait de chance de réussir que s'il était accompagné de mesures générales qui permettraient de relancer la consommation, en tout cas serait l'effet d'un traitement de choc qui ferait comprendre aux Français que la situation est grave. Et en effet, c'est tout à fait envisageable.
Mais c'est ce que les Anglais ont fait quand ils sont sortis du serpent monétaire.
Ils n'ont pas fait exactement. C'est là que Soros est intervenu pour la première fois. Le problème, c'est qu'il faut... Tout ça est encore une fois une question de... En politique, il vaut mieux, dans les situations graves, avoir un génie politique à la barre. On revient sur l'homme providentiel. Major n'est pas un homme providentiel. Mrs. Thatcher était un homme providentiel, entre guillemets, dans une situation donnée. Cela dit, elle a fait pourrir l'Angleterre, quand même, au fil des années. On peut... penser que tout cela, dévaluation, relance, devrait se faire avec quelqu'un qui n'existe pas, c'est-à-dire quelqu'un qui est du charisme, bien qu'on emploie le mot un peu de toutes les sauces, un homme politique de la dimension d'Adenauer en Allemagne ou en France, il faudrait chercher loin pour trouver l'équivalent.
Alors un auditeur nous dit l'emprunt Balladur fait penser à l'emprunt de l'acier victorieux en 1939. J'espère qu'il se trompe quand même dans sa comparaison parce que les suites...
Oui, mais les guerres économiques.
Une auditrice nous dit 1 400 000 Français ont souscrit à l'emprunt Balladur, ce qui n'est pas considérable. C'est à la fois vrai et faux parce que par rapport aux détenteurs d'épargne, c'est énorme.
Oui, non, mais en plus, dans l'emprunt Balladur, on a dit des choses totalement aberrantes en disant, voilà, les Français... La moyenne de l'investissement en emprunt Balladur des Français, des petits Français, je parle pas des institutionnels, c'est 80 et quelques mille francs. Cela veut dire que les Français, c'est les Koweïtiens, c'est la famille du... Quels sont les Français qui peuvent... La moyenne, donc quand vous dites 80 000 francs, de 80 et quelques mille francs de moyenne, c'est-à-dire que, en fait, la vraie moyenne, ça tourne autour de 300 à 400 000 francs.
Ouais.
C'est
pas mal.
Je veux dire, ça sous-entend que il y a la piétaille, mais ça, ils tiennent dans ce compte-là les entreprises, les zinzins, sinon on n'arrive jamais à 80 000 francs. Nous serions le peuple le plus heureux et riche de la terre.
Alors, un auditeur nous fait une remarque, je l'ai pas vérifié, j'ai pas eu le temps, j'ai pas les chiffres, mais il dit, si c'est vrai, c'est quand même assez extraordinaire. Il dit, on parle toujours du coût de la réunification de l'Allemagne de l'Est, mais j'ai fait le calcul, en France, l'immigration coûte autant.
Non, pas vraiment, non.
Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça.
Pas du tout.
Ça mérite quand même d'être comparé. Faudrait voir ce que coûte l'immigration à la France.
Et de toute manière, ils ont autant d'immigration chez eux que chez nous, donc ils ont ce problème, c'est un layer cake, ça, c'est un Napoléon Stuck, comme on dit en Allemagne.
Un auditeur,
le millefeuille.
Oui, c'est ça, le millefeuille. Un auditeur fait une remarque effectivement intéressante. Il dit, est-ce qu'il est vraiment indispensable de sortir de l'ENA, de l'école des mines, ou de Polytechnique ou de Centrale pour inventer l'augmentation du tabac, du prix de l'essence et du prix du ticket de métro?
Pas vraiment.
Je crois que même moi, qui suis pas très matheux,
on peut sortir de l'école communale de Romorantin.
Et puis, alors, voilà la question finale. Je n'ai pas écouté M. Balladur, je n'ai donc pas acheté d'emprunt, nous dit une auditrice, mais vous parlez d'une éventuelle dévaluation prochaine. Alors, pourriez-vous, à la lumière de cette éventualité, nous donner quelques conseils? Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver les meubles?
Ce que j'ai conseillé dans ma lettre bleue, dont les lecteurs sont une immense fortune depuis qu'ils s'y abonnent.
Bah, étant donné le prix de l'abonnement, c'est quand même la moindre des choses.
De 1000 francs, mais 200 francs pour une semaine, pour 4 numéros.
Pour 4 numéros. Ouais.
Un essai, et l'essai ensuite... comme au rugby transformé. C'est simple. Je veux dire, il faut quelques valeurs. Il y a quelques valeurs. Il faut collaborer. Je veux dire, dans le domaine financier, la collaboration n'est pas un vilain défaut. On peut acheter certaines valeurs allemandes. La Commerzbank, par exemple, la Commerzbank ou la Bayerische Vereinsbank, qui est une banque bavaroise, qui a, au dernier 6 mois, a vu ses résultats augmenter de 35%, qui fera sans doute le double d'ici la fin de l'année. Donc ça, acheter des valeurs, on peut en lâcher certaines à Paris, comme la Commerzbank, on l'achète à Paris, en francs, en achetant des banques allemandes, par exemple, en achetant des valeurs américaines, revient à faire du dollar. L'un des meilleurs titres américains sur le long terme, je le conseillais la semaine dernière, c'est McDonald's, tout simplement. Il n'est pas nécessaire de manger des hamburgers pour acheter des actions du marchand de hamburgers, qui a pris 40% depuis le début de l'année et qui prendra au moins autant dans les mois qui viennent. Et puis des valeurs, moi, que j'aime beaucoup, des valeurs néerlandaises et qui profitent du florin et qui profitent également de la qualité de l'économie hollandaise, dont une valeur, mais celle-là est un peu compliquée à acheter, puisqu'il faut l'acheter à Amsterdam, qui est Barsumich, qui est une valeur, c'est une affaire commerce, c'est un négociant. Ce qui est le type même des valeurs néerlandaises, une sorte de compagnie des Indes occidentales,
qui achète,
il importe pour toute l'Europe Sony, le maximum des grandes affaires d'électronique japonaises, c'est lui qui les importe, il a les navires, il les amène et les ventile vers les différents importateurs. C'est une valeur de tout repos.
Alors, en résumé, si vous voulez sauver votre épargne, eh ben, il faut participer à l'assassinat du franc parce qu'il faut acheter à l'étranger.
Exactement. Je veux dire, le problème, ce que je vous disais tout à l'heure, l'argent, c'est bien connu, n'a pas d'odeur, n'a pas de patrie, ou on veut gagner de l'argent, ou au contraire, alors on achète de l'emprunt Balladur et on en perd, sans sauver le franc pour autant.
Voilà, je crois que un auditeur résume parfaitement la situation actuelle. Il dit, si la situation est triste, c'est moins une question de taux monétaire et de taux d'intérêt qu'une question de confiance. Contrairement à ce que disent les sondages, les Français n'ont pas confiance, en tout cas ils n'ont pas confiance dans l'avenir. Et je crois que c'est le problème auquel le pays est confronté. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont un peu de sous le mettent de côté.
Le mettent à droite.
À droite. Et la raison pour laquelle les patrons hésitent à embaucher.
Bien sûr. Bien sûr.
Ce qui est probablement la clé des mystères qui nous accablent.
Les mois qui viennent seront durs pour M. Balladur. C'est une rime riche, mais oui, pauvre en l'occurrence.
Merci Mathieu Huguenet. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur et le rédacteur en chef de la lettre bleue, et qu'on peut se procurer cette lettre en envoyant donc 200 francs pour avoir...
Non, vous pouvez faire une chose toute simple. Vous pouvez, si vous voulez, un exemplaire, et j'envoie l'exemplaire de la semaine, envoyer une enveloppe timbrée, plutôt en longueur, mais sinon on les plie.
En quatre, il s'est fait.
Adressée donc à la lettre bleue de Mathieu Huguenet, ou à Mathieu Huguenet, ça suffit, ça c'est moins long, 16-18 place de la Chapelle, 75-018 à Paris, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en France, plutôt, ça ressemble plutôt à la Haute Volta, mais
c'est en France.
Et je vous enverrai un exemplaire.
Voilà. Alors, Mathieu Huguenet, 16-18, place de la Chapelle, 75-018.
75-018,
ça fait plus. 75-018, Paris. Merci, Mathieu.
Merci.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Document d'archives du 4 août 1993, rediffusé dimanche 15 juillet 2012 dans la nuit de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir, rebonsoir aux auditeurs qui nous ont accompagnés depuis le début de cette émission. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, bonjour à ceux qui nous écoutent le matin, bonne nuit à ceux qui aux insomniaques, enfin tout ça, il y a tout un discours.
Faut pas leur dire bonne nuit, sans ça ils vont s'en coucher.
Oui, déjà que. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on va évoquer avec Jean-Sylve de Ventalon, qui est écrivain et historien, ou historien et écrivain, on va évoquer l'anniversaire, non pas le bicentenaire, mais le bicentenaire plus 3. On va finir par y arriver. Le 4 août, puisqu'on est le 4 août aujourd'hui.
Nous sommes le 4 août.
Et alors, qu'est-ce que c'est que le 4 août? C'est la...
Nuit du 4 août.
C'est quoi, madame l'institutrice?
Voilà.
Non, mais j'attends.
Mais je ne sais rien, moi, les instituteurs ne savent rien du tout.
Enfin, l'abolition des...
droits.
Non, des prix.
Des prix.
Village.
Vous êtes
renvoyé. Elle est nulle. Vous êtes renvoyé, Victoria. Quand je pense que ça m'a noté, ça. Bon, alors, l'abolition des prix.
J'avais le livre à côté de moi. C'est la
porte
des instituteurs. Doctus
cum libro.
Et voilà.
Vous avez compris?
Je savais quand même. Hein. Bon.
Non, mais, on la taquine. Alors, mais avant de passer à ça, on va d'abord s'entretenir, comme de coutume, avec Monsieur Marc Dem. Ensuite, je répondrai à plusieurs appels téléphoniques. Mais je voudrais tout de suite répondre à un auditeur qui me dit, il me pose une question et il signe un fidèle, non pas un fidèle, mais un fidèle, et il dit merci de répondre à cette question qui me tient à cœur. Alors je voudrais dire à cet auditeur que oui, la réponse est oui. Je peux pas dire la question parce que ça engagerait il va comprendre. Est-ce que je fais partie des exceptions visées? Oui, je fais partie des exceptions visées. Voilà, comme ça il est au courant. Mais n'allons pas plus loin. Ne c'est pas du tout compromettant, c'est tout simplement, il pose une question de fonctionnel. Voilà. Alors, pour les autres questions, je répondrai après.
Est-ce que je peux dire, moi, qu'une auditrice m'a fait bien plaisir parce qu'elle a rappelé que c'était François Fillon, ministre de l'Éducation supérieure, qui a nommé GESMAR et non pas mon Bérou.
Ah, c'est pas votre Bérou.
J'aime bien, j'attends qu'il fasse des choses. Je vais peut-être être déçue, mais pour le moment, peux encore espérer.
Mais non.
Il va améliorer l'école primaire.
Vous l'avez eu à l'école?
Non, mais non. Il dit des choses tellement bien quand il était au micro. Maintenant, j'attends.
Marc, je préfère ne même pas répondre, parce que cette dame qui a quand même une certaine expérience de la vie, elle continue à croire qu'un homme politique fait ce qu'il dit.
Il va remettre les méthodes alphabétiques de l'écriture.
C'est ça, chante Fifi.
Et après, il va supprimer le tronc commun pour le collège. Oui,
oui. C'est la première décision qui a été annoncée comme étant abandonnée. Quand ils étaient en campagne, ils ont dit on va supprimer le tronc commun. Dès que Bérou est arrivé au ministère de l'Éducation, première chose qu'il a dite, c'est on ne supprimera pas le tronc commun.
Mais il a dit pour le moment, mais ça va venir.
Pouvez-vous accorder encore le moindre crédit à ces gens-là?
Moi, je crois au Père Noël. Voilà.
Ah bah oui, c'est ça. Bon. Mon cher Marc Dem, croyez-vous au Père Noël?
Moi, je crois au Père Noël, oui.
C'est bien.
Oui,
Vous êtes un bon...
D'ailleurs, je l'ai rencontré.
Non, c'est pas vrai, vous ne croyez pas au Père Noël, vous êtes un homme du Schnorr, et donc vous croyez à Saint-Nicolas.
Pour moi, c'est Saint-Nicolas, c'est exact. Mais je l'ai rencontré, Saint-Nicolas.
Vous avez rencontré Saint-Nicolas?
Oui, je l'ai vu passer avec son âne quand j'étais enfant.
Ah oui.
Je l'ai vu de mes yeux, avec les yeux de mon cœur, comme disait Jeanne.
Avec les yeux de mon cœur, c'est une belle expression. Marc, alors là pour le coup le libre journal paraît, mais le Yotaunum lui ne paraît plus.
Il ne paraît pas pendant le mois d'août pour la bonne raison que l'imprimeur est parti en vacances.
Ah, ces imprimeurs.
Et on ne peut rien faire sans lui, bien sûr.
Mais nonobstant, vous continuez à accumuler les informations.
Oui. Et vous allez donc... beaucoup d'informations au mois de septembre.
Et donc vous allez pouvoir être plus disert que d'habitude, puisque cette émission ne fera pas concurrence à votre lettre qui ne paraît pas. À laquelle cependant, on peut s'abonner pendant le mois d'août. Il n'y a pas de suspension du service abonnement.
Non, il n'y a pas de suspension. Et on peut... beaucoup de gens se réabonnent au mois d'août.
Et on peut surtout en recevoir un spécimen, le spécimen du dernier numéro paru, en envoyant une carte de visite à la boîte postale 52-78-101 Saint-Germain-en-Laye, CEDEX. Et on recevra donc la lettre de la semaine dernière. Alors, quelles informations avez-vous reçues depuis cette lettre que vous pourriez nous livrer?
Eh bien, la grosse information est celle qui va faire un bruit énorme à partir de septembre, c'est cette fameuse encyclique explosive, donc c'est pour cela que je l'ai qualifiée autrefois d'explosive, Splendor Veritatis. Alors les renseignements que j'ai eus dernièrement sont assez significatifs. Avant qu'elle ne paraisse, donc, et elle est tenue secrète pour l'instant, avant qu'elle ne paraisse, elle commence à déchaîner la contestation, et une contestation violente. Vous savez que l'encyclique devait paraître, enfin on pensait qu'elle paraîtrait pour l'anniversaire de Humanae Vitae, ça n'a pas été le cas, et maintenant on annonce qu'elle sera signée le 6 août, jour de la Transfiguration, et qu'elle sera présentée à la presse en fin septembre. Bon, ça nous verrons, puisque... on a déjà espéré pour rien ou attendu pour rien, mais elle finira quand même par paraître, très probablement, et les différentes révélations ont été faites en Allemagne dans le Spiegel, qui prétendait avoir le texte, en fait qui ne l'avait pas, et en Italie, l'agence Avista...
C'est vraiment des spécialistes de ça, hein, c'est...
Pardon?
Le Spiegel, c'est vraiment des spécialistes.
Oui, ils sont très forts pour connaître les choses qui sont interdites aux autres.
Oui, c'est un miroir qui manque de réflexion. Je
oui. Alors, l'agence Adista a lancé, elle aussi, une version, mais le Vatican a répondu d'une façon très ferme, d'une façon qu'il emploie rarement, avec cette même fermeté, en disant, par la bouche de Navarro Valls, il s'agit d'un texte partiel et non authentique, basé sur un brouillon très primitif datant de 3 ans. Est déjà dépassé. L'encyclique est distincte en contenu, en langage et en structure. Bien. Alors, mais ce qu'on sait quand même, on pense quand même, savoir que le contenu aurait pour serait le suivant. Il partirait d'un thème extrêmement intéressant, qui serait celui-ci. Que faut-il faire pour être sauvé? Et ça, c'est nouveau dans les faits. On ne peut pas dire que ça n'est jamais été dit, bien sûr que le pape ne l'ait jamais dit, mais généralement, lorsqu'il donne des leçons de morale, il se réfère surtout à des raisons anthropologiques et sociales. Mmh. Or ici, si l'introduction que l'on suppose est la bonne, eh bien, il commencerait en disant que faut-il faire pour être sauvé. Et pour être sauvé, eh bien, il faut appliquer la morale de l'Église.
Alors, ça va complètement à l'inverse, ça va complètement à contre-courant de la tendance générale aujourd'hui qui consiste à dire, bon, l'homme est sauvé par définition, il est sauvé de naissance en réalité, puisque Dieu étant infiniment bon, il peut pas condamner l'homme à la damnation éternelle, puisqu'il y a une contradiction dans les termes. Donc, quoi qu'il fasse, il est assuré du salut. Et à partir du moment où le pape dit, voilà ce qu'il faut faire pour être sauvé, c'est que la garantie n'est pas fournie avec...
C'est que ce n'est pas réglé d'avance.
Oui. Ça, c'est important.
Comme l'a toujours dit l'Église, bien sûr.
Bien sûr, oui, mais entre l'Église et l'administration ecclésiale, il y a toujours cette vieille différence qu'on constate de plus en plus. Et il suffit de lire les lettres paroissiales, dont je sais que vous les lisez avec beaucoup d'attention, puisque oui. Vous en recevez des dizaines, pour voir que à longueur de lettres paroissiales, l'hérésie fourmille.
Ah oui, oui.
Notamment sur ce plan.
Et non seulement dans les lettres paroissiales, mais dans les mandements épiscopaux.
Alors donc, cette encyclique, on doit l'attendre pour septembre. J'ai déjà entendu des journalistes de radio, qui sont généralement très très bien informés, puisqu'ils ont de bons rapports avec leurs concierges, annoncer que le pape serait plus conservateur que jamais.
Oui, on pense que le pape, justement, ferait fond sur l'infaillibilité qu'il a en matière de morale et sur l'obéissance que tout fidèle doit avoir vis-à-vis du magistère pontifical. Mmh. Cette obéissance vaut aussi pour les enseignements non couverts par le sceau de l'infaillibilité, puisqu'il est docteur. Il est docteur en matière de morale comme en matière de dogme.
Alors, il y a à propos de docteur, je pense à une autre affaire, une affaire qui n'a rien à voir avec tout ça, mais qui a été révélée récemment et qui montre à quel point les médias écrivent absolument n'importe quoi quand il s'agit du Vatican et de l'Église en général. C'était la fameuse affaire de l'exorcisme pratiqué par Jean-Paul II sur une Italienne qui était possédée, et où un journaliste a écrit, je sais plus dans quel journal, peut-être Libération ou peut-être Globe Hebdo, je sais plus exactement, que le pape s'était mis en situation de désobéissance, puisque le pouvoir d'exorcisme était un pouvoir délégué qui ne pouvait être délégué que par un évêque à un prêtre choisi, et par conséquent le pape n'ayant pas été choisi et délégué
par son évêque
il ne pouvait pas pratiquer l'exorcisme.
Oui, c'est une ignorance crasse.
Oui, c'est assez quand même assez rigolo.
Oui. On trouve une ignorance aussi crasse chez l'abbé Pierre, dont j'ai parlé dans le dernier numéro,
oui. Hein,
lorsqu'il dit qu'il a conseillé au pape de démissionner, et que
il avait la possibilité pour le... C'est ça, l'abbé Pierre dit, il faudrait... Ce qui serait bien, c'est que le pape démissionne, et que le synode des évêques refuse sa démission.
C'est ça, oui. Alors que le pape n'a pas sa démission, d'abord c'est une abdication, et elle n'a pas à être reçue ou non. S'il la donne, s'il abdique, il abdique, c'est
voilà.
Tout.
Hein. C'est expliqué, vous dites dans votre lettre que c'est expliqué en long, en large et en travers, et c'est parfaitement codifié
dans le droit canon.
Dans le droit canon. Une question, oui. Vous aviez autre chose à me dire?
Eh bien, à propos de l'encyclique, justement, donc il y avait l'obéissance, mais il y a aussi le rôle des théologiens. Et il dirait que les théologiens ont l'obligation d'expliquer la vérité enseignée par l'Église. S'ils ne sont pas d'accord, ils ont l'obligation de se taire. Et alors, de donner leur démission d'enseignant.
Oui.
Eux peuvent la donner. Et elle sera reçue d'après ce que dit Jean-Paul II, et il fait une obligation aux évêques de les surveiller et de surveiller les universités catholiques. Ça, c'est très nouveau.
Oui, c'est formidable. Ça, c'est une sacrée pierre dans le jardin, enfin dans les broussailles plus exactement, des théologiens échevelés du genre... rappelez-moi son nom, là, cet aimable plaisantin qui prétend que... Le dernier en date, celui Dreverman.
Dreverman, oui.
Dreverman, ce catholique qui ne croit ni à la réincarnation, ni à la résurrection, ni à la, à l'Immaculée Conception, il croit à rien, quoi.
Enfin,
il est catholique,
oui.
Il est quand même théologien catholique. Hein?
C'est... Non, il a quand même été chassé de sa chair
oui,
et suspendu.
À propos, il y a une autre affaire qui nous a beaucoup occupés pendant l'année écoulée et qui apparemment va nous occuper encore, c'est cette affaire du Carmel d'Auschwitz. Avez-vous des informations nouvelles?
Alors j'en cherche, je n'en ai pas trouvé. Mais simplement ceci, c'est que les quelques religieuses qui ont parle toujours au conditionnel à propos d'Auschwitz parce qu'il y a beaucoup de faux brouillés, mais celles, les quelques-unes qui ont rallié le centre œcuménique font beaucoup d'ombrage aux israélites.
Mm-hmm. Hein,
parce que il paraîtrait qu'elles ont beaucoup de succès. Autrefois, bon, elles priaient dans leur cloître, on ne les entendait pas. Là, maintenant, on leur a dit de parler, de dialoguer, mais elles dialoguent. Mais ça, c'est sous réserve.
Oui, alors à ce propos, je suis désolé de me citer, mais il y a un article fort intéressant dans le libre journal de la France courtoise que vous allez
oui.
recevoir très rapidement, puisque il vient de sortir des presses, il est tout chaud. Sur cette affaire, effectivement, où un des membres un des journalistes importants de la communauté, dit « La bataille du Carmel n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. » C'est-à-dire qu'il explique que tout ça est très ennuyeux parce que on croyait qu'en les faisant partir du Carmel pour les installer dans le centre œcuménique, on obtiendrait une grande victoire et que, à l'expérience, il s'avère que cette victoire est pour l'Église catholique et que donc il va falloir trouver une solution pour que maintenant les bonnes sœurs soient obligées de partir du centre œcuménique.
Mais oui, il faut les chasser du centre œcuménique.
Voilà. La question étant de savoir où il faut qu'elles aillent parce qu'il faudrait quand même définir une espèce de périmètre hygiénique ou de périmètre
cordon sanitaire
autour de l'ancien camp de concentration en disant voilà, au-delà de cette ligne, pas un seul catholique. Il suffit de le dire, puisque évidemment le Vatican est prêt à obtempérer et les autorités religieuses en général sont évidemment prêtes à obtempérer à toute exigence, mais il faudrait simplement qu'elle soit formulée d'une façon claire, c'est-à-dire qu'on définisse le périmètre en question, faute de quoi on va rentrer dans un système interminable de protestations où chaque fois que les carmélites vont reculer de 3 km, on va leur dire non, c'est encore trop près, il faudrait encore reculer. Et donc il faut leur dire tout de suite, allez donc au Kamtchatka, encore que je ne sais pas si ça gênerait pas quelqu'un. Peut-être qu'on pourrait les mettre, je sais pas, à l'île du diable par exemple, ça me paraît une bonne idée.
Oui,
voilà,
oui,
on devrait. Encore oui. que non, on va encore avoir des difficultés
Ben
à ouvrir
diable,
un Carmel
oui,
à l'île du
le
diable.
Diable
ouais.
Ça peut être gênant.
Voilà. D'autres informations?
Eh bien, d'autres informations, il y en a quelques-unes. Toujours à propos des questions de morale, vous avez vu, donc c'était dans le dernier numéro, l'histoire que révèle l'Osservatore Romano. On la connaissait un peu, mais elle n'avait jamais été publiée officiellement. L'histoire d'Humanévité, où Paul VI avait réuni une commission préparatoire qui s'était prononcée pour la pilule, à une forte majorité.
Oui,
hein?
Oui.
Mais qu'a fait Paul VI? Eh bien, il a publié son encyclique qui interdisait formellement la pilule.
C'est ça. Il a demandé l'avis de la commission et comme l'avis ne lui plaisait pas, il est passé outre.
C'est ça. Et c'est une chose qu'on ne comprend plus maintenant.
Oui. Hein? Mais surtout, de la part de Paul VI, c'est quand même assez surprenant. Il faut bien
admettre. Eh bien, écoutez, il aura cela à son actif.
Oui.
Humanévité.
Voilà. Mon cher Marc, merci. Je vous dis à la semaine prochaine quand même, vous aurez quand même d'autres informations à nous donner en dépit de la suspension provisoire de Iota Unum pour la durée du mois d'août. Et si on veut recevoir Iota Unum, on écrit, je le rappelle, boîte postale 52 7800 Saint-Germain-en-Laye-Sedex, et on reçoit un exemplaire de cette lettre confidentielle d'information religieuse. De la même manière, je me permets de me citer encore une fois, on veut recevoir le libre journal, on envoie une carte de visite, alors non pas à l'adresse que je viens d'indiquer, mais à une autre qui est 68 rue David d'Angers, 75019 Paris, et on reçoit à ce moment-là un exemplaire du libre journal et on peut se faire une idée de sa qualité tout à fait exceptionnelle pour un prix extrêmement modique. C'est une bonne pub?
Oui, c'est une bonne pub, surtout qu'il faut dire ce qui est, c'est un très bon journal.
Merci, mon cher Marc, pour ce compliment parfaitement spontané. À la semaine prochaine.
Oui.
Quelques appels, j'avais dit qu'on en ferait état. Donc un auditeur nous dit à propos d'une encyclique sur la morale, je pense que Beckett et Marc Dehm croient au Père Noël. Quand on a réalisé la réunion d'assises, on ne peut pas sortir une encyclique sur la morale. Voilà, c'est une opinion. C'est pas une mauvaise opinion d'ailleurs, mais tous les pécheurs peuvent se racheter un jour ou l'autre, surtout quand ils sont papes quand même. Merci. Monsieur de Beketch a-t-il l'intention de refaire passer les messages de Bruno Maigret? Ce dernier est passé ce matin sur RTL, il a été très bien. Oui,
excellent.
C'est vrai, il est excellent, Maigret. Et je lui demande, je sais pas, tous les 15 jours, de reprendre son billet hebdomadaire pour cette émission. Mais j'ai l'impression, faut dire que c'était très compliqué, et j'ai l'impression qu'il est très occupé. C'était très compliqué parce qu'il fallait qu'il enregistre. Bon. Et en plus, parce qu'au téléphone ça passait pas, ou mal, et en plus il fallait qu'il fasse parvenir la cassette, il fallait qu'il le fasse au dernier moment pour être dans l'actualité, il a pas de studio d'enregistrement, et de tout ça, c'est compliqué.
Mais donc, quand il est à Paris, il pourrait bien venir vous voir.
Ben, qu'est-ce que vous voulez?
Ils sont pas gentils.
Il veut peut-être pas se compromettre avec des gens comme moi, je sais pas moi.
Mais non. Peut-être il ne croit pas.
Alors, il y a une chose compliquée, longue, là. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout lire.
Il y a deux points.
On va voir aux côtés du président Mitterrand, à l'occasion des obsèques du roi Baudouin, Madame Simone Veil, qui n'est pas catholique, et qui est la promotrice de la loi pour l'avortement, contre quoi Baudouin Ier avait réagi, comme on sait. Oui.
Plusieurs auditeurs vous demandent de parler du roi Baudouin.
Mais je crois qu'une émission entière a été consacrée au roi Baudouin il y a peu de temps sur cette antenne, si je ne m'abuse, si j'en crois mes espions. Enfin, une partie de l'émission. J'ai pas grand-chose à dire sur le roi Baudouin que je ne connaissais pas. En revanche, j'ai l'intention de faire très rapidement une émission sur le roi Albert. Babert, apporte-moi mon dessert. Qui est un type extraordinairement sympathique.
Ah oui, tout à fait.
Alors, on va en parler. Enfin, un type, pardon, majesté. Un roi sympathique. Non, il est très... En plus, sa femme est d'une beauté. Vous avez vu comme elle est belle, la princesse, enfin, la reine Paola.
Elle a...
Oh, Paola de Calabria.
Remuer les foules il y a quelques années.
Décidément, je pardonnerai jamais aux communistes d'avoir pris le pouvoir en Russie, parce que s'ils n'avaient pas pris le pouvoir, j'aurais peut-être pu épouser Paola de Calabria. J'aurais gardé les terres et tout, on aurait du fric. Hein? Tandis que là, plus rien. Pauvre journaliste, est-ce qu'elle va épouser un journaliste? Vous avez vu comme elle est belle?
Elle est ravissante.
Oh là là, elle est belle. Alors, Fabiola était belle, mais pas très aguichante, faut dire quand même. Enfin, elle est belle, mais pas très aguichante. Tandis que là, elle est magnifique, elle a un sourire splendide, des cheveux des cheveux de soie dorée, c'est splendide. Et Albert a bien de la chance.
Il faut rappeler que les rois de Belgique ont du sang bourbon. Hein? C'est très...
Les rois des Belges.
Les rois des Belges.
Bah, comme tous les bons rois.
Comme tous les bons rois.
Alors, donc, vous me pardonnerez de ne pas parler de Baudouin Ier, mais j'ai pas grand chose à en dire. Je ne me suis pas beaucoup intéressé à cette question. En revanche, je vais m'intéresser à Albert qui me plaît bien. Voilà. Je me trompe peut-être, comme d'habitude. Mais enfin, je trouvais bien Monsieur Balladur sympathique.
C'était plus grave.
C'était plus grave, quand même.
Plus grave.
Alors, la deuxième chose. Le Tour de France est passé à Verdun, à Douaumont. Or, pas une minute de silence ni un mot des médias pour souligner cela, alors qu'on avait fait arrêt et silence pour De Gaulle, qui venait de trahir l'Algérie. Là, je comprends pas très bien.
Il y a eu un autre Tour de France. Oui, mais là, celui-là, regardez pour ce qu'ils ont fait.
Au contraire, un dessinateur de gauche invité ironisait, on passe à la tranchée des baïonnettes, il va y avoir des crevaisons. C'est amusant comme tout. Effectivement, si on avait eu des gens comme ça pour défendre le pays en 17, je me demande s'ils seraient aujourd'hui en mesure de raconter leurs bêtises. À propos des petits commerçants, nous dit une auditrice, comment se fait-il que certains commerces, comme par exemple les drugstores, ouvrent sans discontinuer? Pourquoi la règle de la fermeture du dimanche n'est-elle pas la même pour tous? Nous sommes dans un pays de liberté et d'égalité, mais y a-t-il une justice? Oui, bonne question. Bonne question, effectivement. Je ne peux pas apporter de réponse, parce que je n'ai jamais bien compris pourquoi des magasins sont ouverts le dimanche et pas d'autres. En plus, l'argument de Virgin, oui, les magasins alimentaires, mais ça a toujours existé. L'argument de Virgin, c'est de dire qu'il s'agit de biens culturels. Les disques et les livres. Mais moi, je suis désolé, les biens culturels, ça s'arrête pas aux disques et aux livres. Si vous faites de la sculpture, par exemple, les biens culturels, c'est les marteaux et les burins. Si vous faites de la peinture, il faut laisser ouvert les magasins de peinture. Vous avez des gens qui aiment la musique, mais pour en jouer. Donc, il faut laisser ouvert les magasins d'instruments de musique.
Luthier.
Les marchands de hanches. Mm-hmm. Mais les marchands de hanches. Et par exemple, rue Marx Dormoy à Paris, il y a un grand magasin, à l'enseigne duquel on lit, mais c'est le grand, grand nom du magasin, c'est très haut, très, très, enfin, très grand. Marteau pour piano. Uh-huh. Quel beau métier. Qu'est-ce que vous faites? Je suis directeur d'un magasin de marteau pour piano. Et je vous jure que c'est vrai.
Oui, oui, monsieur.
Ce magasin, il faut le laisser ouvert le dimanche, parce qu'imaginez un pianiste qui pratique la culture pianistique le dimanche, tac, d'un seul coup, un marteau casse, il se précipite rue Marx Dormoy, et il achète un marteau pour piano. Donc il
tout
faut
à fait.
Hein, alors limiter la culture aux CD de je ne sais quel groupe de rock et aux livres romans policiers qui ne sont pas les romans policiers d'ADG, je trouve ça dommage. Hein. Voilà. Madame Mitterrand a installé dans le Massif central environ 400 Kurdes. On pourrait peut-être les échanger avec les 4 Français retenus en otage, nous dit une auditrice. Mais voilà une idée excellente.
Bonne idée.
Mais en plus on leur en donnait 400 contre 4. Alors dis donc 100 pour 1. Alors là, ils y gagnent. Hein.
Bénéfice.
Oh, c'est bénéfice. Une bonne idée, ça. Oui, 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 madame, bravo. Moi, je suis tout à fait d'accord. On va lancer une pétition. Rendez-leur les Kurdes qui nous rendent les Français. Hein? Oui. Non, vous n'êtes pas d'accord?
Non, ils ne voudront pas s'en aller.
Ils ne voudront pas, non, c'est ça. Et oui, toute la différence, d'ailleurs, c'est qu'eux ne voudront pas partir. Alors que je suis certain que les Français qui sont otages en Kurdie...
Ils ne vont certainement pas prier pour revenir.
Et voilà. Bien,
Je suis chef d'entreprise, tiens, nous dit un auditeur. Je rencontre beaucoup de personnes et de tous les niveaux. Depuis un mois, je demande qui a acheté de l'emprunt Valadur. Personne. En Bretagne, où j'ai de la famille, même question, même réponse. Alors, on nous ment. Qui a acheté cet emprunt?
Moi, je crois que c'est Valadur qui a acheté l'emprunt lui-même.
Autre question d'auditeur. Quand Serge aura-t-il terminé enfin son livre « La nuit de Jéricho »
Eh bien, je dois vous répondre. C'est très gentil de poser la question. C'est très gentil de poser cette question, mais elle se heurte à une autre question, non pas une question, mais une revendication d'un auditeur qui téléphone en disant « Beketch n'a pas le droit de pas faire son émission tous les mercredis. On est très content d'entendre Sanders, mais il faut qu'il reste à l'émission. » Alors. Ça me flatte beaucoup, je suis très très content de savoir que je manque à certains, enfin au moins à un auditeur, mais il faut bien que je prenne du temps pour écrire. Donc par exemple, je vous le dis à mon grand regret, la semaine prochaine et la semaine suivante, je ne serai pas au micro, ce sera Alain Sanders et Daniel Amiche qui assureront l'intérim avec le succès habituel et la qualité habituelle.
Et vous, pendant ce temps-là, vous allez écrire?
Pendant ce temps-là, je vais écrire, voilà, c'est ça.
Est-ce qu'il sortira pour les BBR?
C'est bien l'objectif.
Ça vous cravache un peu,
oui,
les BBR.
Bien sûr.
C'est bien, c'est bien.
Les BBR, il faut peut-être que vous expliquiez ce que c'est.
La fête des bleus, blancs, rouges.
Qui va se dérouler
Le 25 et le 26 septembre à Vincennes.
Elle est bien, elle sait tout.
Je
hein.
sais tout, sauf
le 4 août.
Mais écoutez, le 4 août, c'est l'abolition aussi des droits seigneuriaux, non?
Ben c'est la même chose.
Mais oui, mais c'est mieux dit comme ça.
Mais
que
non, justement, c'est un mensonge.
Des privilèges.
Non, on va voir ça avec.
Ça
on va voir ça avec Jean-Cyl de Vantavon tout de suite.
Par ailleurs, une auditrice très jalouse conseille à Serge de Beketch de se contenir quand il parle de la princesse Paola. C'est un coquin.
C'est ma femme qui a téléphoné.
Elle a fait téléphoner. Hein.
C'est bien.
Bon. Et le 4 août, nous précise un auditeur, c'est aussi l'anniversaire de la déclaration de guerre. De la guerre 14-18.
Ah oui.
Je crois que c'était pas... C'était... Ah bon.
Oui, c'est 4 août.
Enfin, décidément.
Un jour, oui. Là. Oui.
Voilà, c'est tout.
Oui. Ah non, si, tiens, j'ai vu une interview de Monseigneur Gaillot et Jean-Pierre Moatti. Non, pardon, Jean-Pierre Mocky sur Arte. C'est honteux. Pourquoi l'Église ne prend-elle pas de sanctions contre Monseigneur Gaillot?
Mais non, il faut... Écoutez, alors ça, c'est... J'entends cette question
c'est
depuis des anneaux. Des années. Des anneaux. N'importe quoi. Depuis des années, j'entends dire pourquoi ne pas crosser Gaillot. Mais Dieu fasse qu'il ne soit jamais crossé. Écoutez, d'abord parce que Gaillot, à quoi il faut réfléchir en termes de stratégie. À quoi il sert? Il sert à tout le monde. Hein. Il sert au Vatican, enfin à l'autorité, oui, au Vatican, parce que ça permet de dire, mais écoutez, vous voyez qu'on est parfaitement libéraux, puisqu'il peut dire absolument n'importe quoi, et on le crosse pas. Bon. Il sert aux évêques, qui pendant que Gaillot fait ses guignolades, qui sont absolument sans importance. Ça n'a aucune importance qu'il fait. Il dit des choses, il parle, mais dans la réalité, il ne fait rien. Mm-hmm. Bon. Eux, pendant ce temps-là, ils font vraiment du sale boulot de destruction de l'Église par l'intérieur, mais personne ne s'occupe d'eux. Personne ne s'occupe de Jordan, personne ne s'occupe de Thomas, personne ne s'occupe de Courtrai, parce que Gaillot est là, et en plus de Courtrai se paye le luxe de faire des remarques à Gaillot en lui disant « Écoutez, père, je trouve que vous allez un petit peu loin, je vous demande d'observer un devoir de réserve. » Donc ils les servent, pendant ce temps-là, ils font leurs histoires, personne ne s'intéresse à eux. Et puis, il faut dire une chose aussi, ça va peut-être scandaliser ce que je vais dire, mais Gaillot, il sert beaucoup la tradition, parce qu'il incarne tellement, jusqu'à la caricature,
l'effet de repoussoir,
l'abomination de l'Église moderne, de l'Église conciliaire, que nous, on peut dire, parce que sans ça, les Français comprendraient pas pourquoi on n'est pas dans l'Église conciliaire, les Français qui s'en foutent ou qui voient rien, c'est-à-dire l'immense majorité, ils comprendraient pas. Tandis que nous, on leur dit, mais écoutez, comment voulez-vous qu'on soit dans la même église que ce type-là? C'est pas possible. Donc, gardez-nous Gaillot. Gardez-le pour le Vatican, pour les évêques et pour nous. Voilà. Vive Gaillot.
Oui, oui, tout à fait.
Hein?
Tout à fait juste.
Mais, bien sûr, c'est certain. C'est un peu tordu, ce que je dis, mais...
Ah non, pas du tout, non, j'ai pas l'impression.
CQFD. Voilà. Alors, le 4 août est l'anniversaire de la déclaration de la guerre de 14-18, mais il est également l'anniversaire de cette fameuse abolition des privilèges que Victoria, en bonne institutrice, appelle d'une façon parfaitement désinformative l'abolition des droits seigneuriaux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Jean-Sylve de Ventavon, historien et écrivain d'histoire... d'histoire avec une grande H.
Avec une grande H.
Et d'histoire avec une petite H. Mm-hmm. Je lui ai demandé de venir ce soir pour remettre la vérité en vigueur sur cette affaire de l'abolition des privilèges. Alors, si vous permettez, Jean-Sylve, avant de vous donner la parole, je vais me permettre de donner la parole à un autre historien que vous connaissez, qui s'appelle Jean Tullard.
Oui, oui.
Et dont je rappelle qu'il est l'auteur, avec Fayard et Fierro, d'un histoire et dictionnaire de la Révolution française 1789-1799, qui est publié par Robert Laffont dans la collection Bouquins. Okay, et vraiment, si vous achetez un livre tous les 10 ans, ça existe, il y a des gens qui achètent un livre tous les 10 ans.
Mais
c'est celui-là qu'il faut acheter. C'est absolument indispensable. Oui, plus le mien. Mais enfin, le mien est moins intéressant quand même.
Il
est moins
indispensable. Il est encore écrit.
En plus, oui. Il y a tout. Si on veut comprendre la Révolution, son histoire, tout savoir, l'avoir. En plus, c'est un bouquin, une collection de bouquins. Donc, on le prend à n'importe quel moment. On le tord, on le retourne, on le plie. Non, il n'y a aucun danger. C'est merveilleux, la collection de bouquins.
Oui, oui, c'est une très belle collection.
Ça ne peut pas se déchirer. Vous
le
posez comme ça.
Pour le manipuler.
Vous le posez
comme
ouvert.
Ça.
La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est corner les pages parce que ça, c'est dégoûtant et sale. Mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez l'avoir. Il est un peu gros pour l'avoir dans la poche, à condition d'avoir des... Enfin, sauf si vous avez des grandes poches. C'est formidable. Voilà. Alors, dans ce bouquin, il y a un dictionnaire, donc, de la Révolution. Et je l'ai pris, c'est à la page 1047. Dans le dictionnaire de la Révolution, on lit la chose suivante. Privilège. Les privilèges étaient la loi courante dans la France d'Ancien Régime. On a trop insisté sur les privilèges insignes dont bénéficiaient la noblesse et le clergé, exemptés d'impôts, disposant de juridictions spéciales, en oubliant que les nobles n'avaient pas le droit d'exercer certaines professions et qu'ils étaient généralement condamnés plus sévèrement par les tribunaux, car ils auraient dû donner le bon exemple. Mais les privilèges s'étendaient à tous les corps de métier, à toutes les communautés, à toutes les provinces. La France de 1789 n'était qu'un maquis de privilèges, avec 25 millions de privilégiés, certains étant seulement plus privilégiés. Voilà, je crois que ça résume parfaitement la vérité. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre par quelle manipulation on est passé de cette réalité, qui était une décapitation de la société française.
Tout à fait.
À la réalité, au mensonge d'aujourd'hui, qui consiste à faire croire que la Révolution a supprimé les privilèges de la noblesse, le clergé, on n'en parle même plus, parmi lesquels le droit de cuissage.
Bien entendu, oui.
Et donc, c'est une grande victoire de la Révolution.
C'est-à-dire, aujourd'hui, on prend le mot privilège dans son acception moderne. En fait, privilège, et Tullard le rappelle fort justement, privilège dans la langue de l'Ancien Régime, ça veut dire liberté, n'est-ce pas? tout le monde a des libertés, tout le monde a des privilèges. Là, on parle des privilèges de la noblesse. D'abord, ce sont des privilèges, il y a les droits seigneuriaux, c'est vrai, qui sont des droits matériels. Mais sous Louis XVI, ce sont surtout, du moins il y a beaucoup, de privilèges qui sont purement honorifiques. Le noble a le droit de porter l'épée, il a le banc d'œuvre à l'église, il a le droit d'avoir une girouette en colombier sur son toit. Les gens du tiers n'ont pas le droit de ces marques extérieures. C'est tout.
Cela dit, j'ai gardé en mémoire, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez me dire que quand un roturier voulait entrer à Versailles, il louait à l'entrée du château.
Bien entendu, il suffisait pour pouvoir entrer à Versailles d'être vêtu convenablement et de louer une épée au vendeur d'épée, au loueur d'épée qui se trouvait aux grilles du palais.
Donc on pouvait se faire passer
tout à fait. D'ailleurs,
il fallait un chapeau aussi.
D'ailleurs, les rois de France étaient en contact permanent, si je puis m'exprimer ainsi, avec leur peuple. Henri IV se fait assassiner. Pourquoi ? Parce qu'il est pris comme tout un chacun dans un embouteillage. On imagine mal aujourd'hui Monsieur Mitterrand pris dans un embouteillage.
Oui, vous avez tout à fait raison de faire remarquer ça, effectivement.
Alors, pour en revenir aux privilèges, les nobles ont, c'est vrai, donc je répète, des droits féodaux qui sont des droits matériels. Mais beaucoup de droits honorifiques que les bourgeois n'ont pas. L'épée, le banc d'œuvre, le colombier. Mais en revanche, les bourgeois, eux, ont des privilèges. Ils ont le privilège d'abord de faire du commerce. Et le noble ne peut pas, lui, faire de commerce, sinon il déroge. Or, sous le règne de Louis XVI, et bien avant déjà, d'ailleurs, c'est un effet qui a commencé à naître dès le XVIe siècle. L'argent a de plus en plus d'importance dans une société qui n'est pas une société matérialiste, qui n'est pas une société de classe, mais une société d'ordre, qui n'est pas une société de profit, mais une société d'honneur. L'argent commence à dominer de plus en plus. Et le noble, ne pouvant pas faire de commerce, alors que bien sûr le commerce est le moyen le plus sûr avec la banque, qui est aussi une forme de commerce, et de gagner de l'argent, le noble est maintenant quasiment ruiné sous le règne de Louis XVI. Je parle de la petite et moyenne noblesse, je ne parle pas de la grande noblesse. La grande noblesse est immensément riche. Alors donc, abolition des privilèges, la nuit du 4 août, abolition des privilèges. Il faut, je crois, si l'on veut évoquer cette journée, qui d'ailleurs n'est pas une journée, mais est une nuit, je crois qu'il faut replacer un peu l'atmosphère. Le 14 juillet 89, bien sûr, est encore tout récent. Mais le 14 juillet 89, qui est une journée d'émeute, bien entendu, comme chacun le sait, n'a pas été la seule émeute de cet été tragique. Il y a eu le faubourg Saint-Antoine qui a vu brûler les entreprises de Réveillon et d'Henriot. Il y a eu un peu partout en France des émeutes. La France est en train de bouillonner. Les excès, les violences, les carnages ne vont pas naître comme ça au moment de la terreur. Ils existent déjà, ils sont en maturation, ils sont en train de s'activer de plus en plus. Et le 4 août 89, il y a une chaleur, et ce n'est pas simplement anecdotique ce que je vais dire, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Il y a une chaleur caniculaire en France. Fait très chaud et l'on boit beaucoup. J'ouvre une parenthèse, il faut remarquer que les étés 89, 91, 92, 93, 94, qui sont les étés des grandes journées révolutionnaires, sont des étés torrides. Et lorsqu'on a chaud, on boit. Ce qui explique en partie, bien sûr que non. Ça n'explique pas totalement, mais ce qui explique en partie les massacres. Donc, le 89, il fait chaud, chaleur caniculaire, et puis les représentants à l'Assemblée constituante, l'Assemblée constituante d'ailleurs qui existe, qui s'est auto, c'est l'Assemblée nationale qui s'est auto-déclarée constituante, se réunit dans la soirée. Et dans la soirée, il y a un gentilhomme qui monte à la tribune. Faut préciser que la séance est présidée par le chapelier, qui se fera connaître par la suite
par la loi,
par la fameuse loi,
funeste loi le chapelier,
qui va brimer horriblement les ouvriers puisqu'elle va leur interdire le droit de se rassembler, le droit de coalition. Il y a donc le président le chapelier et un rapport élu. Le rapport élu par un nommé Target. Target est un avocat qui va dans quelques temps être l'un des rédacteurs de la Constitution. C'est pourquoi d'ailleurs on va appeler cette Constitution sous forme de dérision la Targette. Ce sera Monsieur Target qui l'aura rédigé en partie. Alors il prend la parole et il fait un rapport financier. On ne parle pas du tout de droits seigneuriaux, on ne parle pas du tout de privilèges, on parle finance. Et puis on va dîner. Enfin plus exactement, on va souper, pour parler le langage du temps. On va souper, et il fait chaud, on boit, et on boit beaucoup. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout le monde revient à la salle de réunion, dans un état intéressant. Et à ce moment-là, Noailles monte à la tribune, et ce Noailles, nous y reviendrons tout à l'heure. Ce Noailles, enfin je dis déjà que c'est un personnage aigri, un personnage qui est un cadet d'une grande famille, mais qui est un cadet, n'a pas assez d'argent pour assumer ses goûts, qui sont, nous le verrons tout à l'heure, des goûts de très grands seigneurs. Enfin c'est un homme qui est en parfait levain de révolution, malgré qu'il soit vicomte, et encore une fois, je le répète, qu'il appartienne à l'une des grandes familles du royaume. Alors il rappelle, et là il rappelle justement que les Français n'ont pas voulu et ne veulent pas tant une constitution dont on leur rebat les oreilles, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est l'égalité financière. Et dans sa lancée, Noailles propose que les communautés puissent racheter les droits féodaux. Les droits féodaux, sauf les corvées, les mains mortes et les servitudes personnelles. Alors, quelques-uns des membres de l'Assemblée applaudissent, d'autres rechignent. Aiguillon, le duc de Guyon, qui est également un grand seigneur, lui veut que tout soit remboursé. Tous les droits seigneuriaux que l'on rachète doivent, selon lui, être remboursés.
Il faut peut-être ajouter un petit détail à propos de Noailles, c'est qu'il avait beau jeu de dire ce qu'il disait, puisque la famille était complètement fauchée, enfin sa branche était complètement fauchée.
Non, mais je viens de le dire.
C'est
ce que je viens de dire. Je veux dire qu'il appartient à une très grande famille, mais que lui est en cadet.
C'est ça,
il n'a pas d'argent.
Tandis qu'Aiguillon, lui, il est richissime.
Alors qu'Aiguillon est richissime, ce n'est pas un mauvais homme, puisque c'est le fils du duc d'Aiguillon qui fut l'un des meilleurs ministres de Louis XV. Et c'est un homme qui est un peu une tête éventée, mais qui n'a pas de trop mauvaises idées. Il voudrait que l'on abolir les vénalités des charges. Or, les vénalités ont été supprimées par Louis XVI dans l'armée, mais pas dans la magistrature. Et il souhaiterait que la vénalité des charges, donc l'achat des charges judiciaire, soit aboli. J'ouvre encore une fois une parenthèse, sinon j'arrête pas d'ouvrir les parenthèses.
Oui, il faut la fermer.
Il ne faut pas oublier que cette vénalité des charges, qui peut paraître condamnable et qui l'est sans doute en partie, représentait quand même une garantie d'indépendance pour les magistrats. Puisqu'ils étaient propriétaires de leurs charges, ils ne risquaient pas d'être limogés s'ils ne suivaient pas la volonté du pouvoir. C'est l'un des aspects favorables que l'on peut que l'on peut voir dans cette vénalité des charges. Donc, Aiguillon veut que tous les...
L'aspect moins favorable, c'était que ça les rendait plus sensibles à la corruption, ce que nous avons vaincu aujourd'hui.
Oui, ce que nous avons vaincu aujourd'hui. Non, mais ça, tout à fait. Mais enfin, il ne faut pas voir, on a l'habitude de condamner comme ça, sans aucune mesure, la pratique de la vénalité des charges. Or, il faut voir qu'elle n'était pas tout à fait mauvaise. Je dis pas qu'elle était excellente, mais elle n'était pas tout à fait mauvaise.
Elle est toujours en usage pour les pharmaciens et les notaires.
Oui, tout à fait. Mais bien entendu. Donc, Noailles veut la suppression des droits féodaux. Il souhaite que les communautés puissent les racheter, sauf, je disais, les corvées, les mains mortes et les servitudes personnelles. Aiguillon est d'accord pour qu'on les supprime, ces droits féodaux, mais il veut qu'ils soient tous remboursés. Et Dupont... Le représentant Dupont, c'est l'ancêtre du fameux Dupont de Nemours, qui ne s'appelle pas Monsieur de Nemours, mais qui s'appelle Monsieur Dupont et qui est un élu des électeurs de Nemours, est d'accord avec d'Aiguillon. Bon, jusqu'à présent, tout ça se déroule à peu près sereinement. Mais ça ne va pas durer. Toujours l'effet des spiritueux. Alors à ce moment-là, il y a un Monsieur Leguen de Kéréandal, qui va monter à la tribune et qui va commencer à attaquer violemment la noblesse et qui va commencer à montrer le deuxième ordre comme les historiens de la République vont les montrer. C'est-à-dire, il commence à dire que les paysans dans les campagnes sont pires que des bêtes, qu'ils sont attelés à des charrettes, qu'ils battent bien sûr les étangs pour faire taire les grenouilles qui empêchent le méchant seigneur de dormir. Enfin, mille choses fort grotesques.
À propos de Kéréandal, il y a un détail qui est quand même important à rappeler, c'est que il se présente comme un paysan.
Il s'habille, mais c'est ça qui était très...
négociant en poil.
Voilà, tout à fait.
Alors, c'est un menteur.
C'est très amusant à souligner. Oui, il arrive habillé comme Jacques Bonhomme. Il arrive habillé avec des gros pantalons, une veste. Donc, il est comme un cultivateur et pas un cultivateur riche. Or, comme vous le faites fort justement remarquer, c'est un homme qui a de la fortune. Maître Lapoule lui succède. Maître Lapoule est donc un avocat franc-comtois. Alors lui, il en rajoute à l'image totalement folle que vient de brosser de la noblesse Kéréandal. Dit que lui, dans son pays, c'est bien simple. Eh bien, les seigneurs, en hiver, lorsqu'ils rentrent de la chasse, comme ils ont froid, ils ont trouvé un moyen très très aisé pour se réchauffer les pieds. Ils font ouvrir le ventre de leurs paysans et ils se chauffent les pieds dans les entrailles de ces pauvres gens, ce qui est évidemment une façon... Donc ça, c'est l'attaque du tiers et du tiers fortuné. C'est l'attaque du tiers et du tiers fortuné. Et entre parenthèses, il faut rappeler que les représentants du tiers à l'Assemblée sont tous fortunés. Hein, ce sont tous des bourgeois, on dit le tiers-État. Oui, c'est le tiers-État, mais sinon le haut-tiers, c'est le haut-tiers et le moyen-tiers, mais le petit, le tout-petit tiers n'existe pas. Il n'y a qu'un ouvrier qui est élu aux États généraux. Tous les autres sont des médecins, des avocats, des notaires, des juges, voire des gentilshommes d'ailleurs.
Pour deux raisons simples. La première, c'est que la plupart des élections du tiers, la plupart des élus du tiers ont été désignés à travers des élections truquées, manipulées par la franc-maçonnerie.
Bah bien sûr, mais
on en a eu la preuve un document qui nous a été apporté récemment par Daniel Raffard de Brienne.
Bien sûr.
Première chose. Et deuxième chose, les gens qui travaillent, les boutiquiers, les artisans, même les petits bourgeois d'affaires, n'ont pas du tout le temps d'aller perdre
leur vie
à Paris. Ils sont dans la boutique, ils travaillent, ils n'ont pas le temps d'aller
faire les guignols. C'est très important à souligner cette affaire des cahiers de doléances. La maçonnerie a, en quelque sorte, fait passer partout des espèces de modèles de cahiers de doléances. Et tous ces braves gens, qui sont tous maçons eux-mêmes, ont en fait que copier ce que les grands maîtres leur communiquaient. Donc il n'y a pas du tout de... Et quand on observe quelques cahiers de doléances qui ont échappé, on ne sait trop pourquoi, à la mainmise maçonne, on s'aperçoit que les Français ne demandent pas du tout des choses extraordinaires. Lorsque j'ai écrit mon Catelineau, j'ai été amené à lire le cahier de doléances des habitants du Pin-aux-Mauges, qui est la ville, le village, le hameau natal de la Roche-Jacquelin. Eh bien, ces braves gens, vous savez ce qu'ils demandent ? Ils demandent simplement qu'il y ait un petit peu plus de vétérinaires, un petit peu plus exactement d'étudiants qui travaillent sur pour être vétérinaires. Voilà, c'est tout ce qui leur importe. C'est curieux, le reste, ça ne les intéresse pas. Voilà. C'est pas de... Donc là, nous avons vu le tiers attaquer la noblesse. Et à partir de là, ça va être une espèce de je te prends ça, tu me prends ça, je te prends ça. C'est assez extraordinaire. Vous avez un chevalier de Malte, de bonne noblesse, mais de petite noblesse. C'est c'est le marquis de Foucault-Lardinali. Et ce marquis est chevalier de Malte, de petite noblesse, et il est la haute noblesse. Alors, puisqu'il est la haute noblesse, il va proposer des mesures afin de brimer cette haute noblesse. Comme lui n'a rien, bien entendu, il va demander que l'on supprime les droits féodaux qui rapportent, ce que je disais tout à l'heure, les droits féodaux matériels qui rapportent de l'argent. Et ça va être une surenchère perpétuelle. Si bien que ça va être une surenchère perpétuelle où il n'est pas non plus inintéressant de voir le jeu que mènent les prélats. Les prélats, parce que, vous savez, lorsque le tiers a demandé que les élections, que ce soit par tête, n'est-ce pas, qu'il ne voulait pas de, parce qu'il craignait que le premier ordre, c'est-à-dire le clergé, et le deuxième ordre s'entendent, et à ce moment-là, bien entendu, le tiers était minoritaire. Et là, dans cette affaire que je vais vous dire, on s'aperçoit que c'était une vision tout à fait fausse qu'ils avaient, ces gens-là. Il n'y avait pas du tout d'entente entre la noblesse et la prélature et le clergé. Il y a eu après, par la suite, mais à cette période-là, pas du tout. Puisque il y a trois prélats, Monseigneur de Lafare, de Boisgelin et de Lubersac, vont faire des envolées effroyables contre le deuxième ordre. Entre autres, Lafare va demander la suppression du droit de chasse. Donc, ça ne plaît pas aux nobles. Et le duc du Châtelet se tourne vers son voisin et, entendant Lafare dire « Je demande que l'on supprime le droit de chasse », va dire à l'un de ses voisins, va lui dire, puisqu'il nous ôte le droit de chasse, nous allons, nous, leur ôter la dîme. Et il demande la suppression de la dîme. Si bien qu'à la fin de la nuit, à force de s'arracher leurs privilèges, les nobles et les prêtres n'ont plus rien, ou quasiment plus rien. Mais il ne s'agit pas que des hommes, il s'agit aussi des pays. Car si, dans l'Ancien Régime, les hommes ont des privilèges, les pays, les métiers en ont également. Et l'on va supprimer les droits des pays d'État. Et puis, bon, plus tard, on verra, les privilèges des métiers seront supprimés, les métiers des provinces seront... Les privilèges des provinces seront terminés. Alors, je voudrais...
On sent qu'il y a une espèce de folie qui s'est apparue. C'est pour ça que c'est très important de signaler que c'était tous sous comme des cochons.
Et c'est une espèce de folie. Alors, non seulement il y a la fumée des spiritueux, n'est-ce pas, mais il y a les fumées philosophiques qui encombrent ces pauvres cervelles. Ah, tout ça a fait un mélange d'étonnant qui a donné... D'ailleurs, je vais vous lire, si vous le permettez, quatre lignes. Dans Breton, qui s'appelle, je crois, je me souviens plus de son nom, je crois que c'est Quérin Il y a un nom fort difficile à prononcer, je crois que c'est Kérinkien. Kérinkien. Je crois que c'est un nom de... Alors, il raconte ce qui s'est passé pour les Bretons. Les Bretons ont demandé la suppression des droits de Bretagne. Vous savez que les provinces avaient des droits particuliers, et la Bretagne singulièrement. Il faut dire que les nobles bretons ne sont pas représentés. Le deuxième ordre breton a refusé de participer aux états généraux parce qu'il considérait ces états généraux-là comme contraires aux droits bretons, puisqu'ils allaient se faire, pas par ordre, mais qu'ils allaient se faire par tête. Donc ils ont dit, puisque c'est ça, nous ne participons pas. Si bien qu'il n'y a pas un noble breton qui est représenté à la Constituante, enfin à l'Assemblée nationale, puis à la Constituante. Alors voilà ce que dit ce breton. Les Bretons, dans l'ivresse du triomphe, ne savent plus trop ce qu'ils disent ni ce qu'ils font, mais veulent faire encore plus que les autres, plus de sacrifices que les autres, comme ils appartiennent tous aux tiers ou aux bas clergés, pour les raisons que je viens de dire. Ils n'ont pas de privilège à immoler sur l'autel, et c'est ce que je viens de dire. Qu'à cela ne tienne, dans un élan incontrôlé, quelques-uns d'entre eux clament qu'ils renoncent aux privilèges de la Bretagne. Ce dont ils n'avaient absolument pas le droit, bien entendu. Alors, tout ça a été fort bienvenu. Mais les jours suivants, on va s'apercevoir, que toutes les mesures que l'on vient de prendre, toutes les mesures libérales que l'on vient de prendre, pour les appliquer, exigent des sommes astronomiques. Alors, elles seront pas ou peu appliquées, elles le seront bien sûr par la suite, et on sait comment elles vont l'être, mais dans l'immédiat, elles le sont pas ou peu. Et c'est le duc de Castres qui dit « Vite dégrisé, l'Assemblée s'aperçut que la plus grande partie des dépenses que ces décisions rendraient nécessaires allait incomber à l'État. Les basses eaux de la trésorerie ne permettaient pas d'y pourvoir », se dit le duc de Castres. Et ce fut tragique, parce que les bonnes gens auxquels on avait promis monts et merveilles, voyant que rien ne venait, mais ils se sont fâchés. Et ça a été le début d'une terreur épouvantable.
C'est ça.
La grande peur qui venait de s'achever a repris ce que l'on ignore, généralement, ce que l'on dit rarement. Et il y a eu des châteaux brûlés, des massacres, des horreurs commises épouvantables. Ce qui a entraîné une vague d'émigration. Vague d'émigration dans laquelle on compte qui ? Ben, le vicomte de Noailles. Le vicomte de Noailles qui est parti bien vite.
Après avoir allumé la mèche, il s'est éloigné de l'exposé.
Et qui d'ailleurs, aux États-Unis, il émigre aux États-Unis. Aux États-Unis, va être l'un des émigrés les plus attachés, je dirais pas absolutiste, parce que le mot n'existe pas encore, il va apparaître qu'en 1795-96, mais le plus attaché à la monarchie traditionnelle. Alors qu'il a été parfaitement libéral, parfaitement monarchien, avant le terme aussi, il va se révéler aux États-Unis, au contraire, réactu, pour parler comme l'on parlait dans ce temps-là, en réactu de la plus belle aube. Et puis, cette immigration va être énorme, puisque rien que pour Paris et dans la région parisienne, on va délivrer 12 000 passeports, ce qui est considérable. Donc la terreur, et ça je crois que c'est important à souligner, la terreur va commencer déjà là. La nuit du 4 août porte sur les fonts baptismaux, si j'ose dire, la terreur qui va déferler dans 4 ans, dans 3 ans, sur la France. Et Bonaparte, qui était orfèvre en matière de révolution, l'a fort bien compris, puisqu'il a écrit « La terreur en France a commencé le 4 août. C'est alors que le signal de la curée a été donné » que le dispositif a été mis en place et en œuvre pour substituer entièrement une classe à une autre. Il faut frapper de terreur, mettre en fuite, et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on fait la lanterne et les exécutions populaires. ce que Bonaparte va écrire à Sainte-Hélène.
Je crois que ça résume parfaitement alors, la réalité de
alors,
de
cette date. Je crois aussi qu'il faut peut-être observer que cette nuit du 4 août, parce que les décrets rendus le 4 août, il y a des décrets qui sont rendus le 4 août, et puis il y en a d'autres qui vont être rendus le 24 et le 23 et le 24, n'est-ce pas? Il n'y a pas que le 4 août qu'il y a eu des décrets suicidaires, mais il y a eu des décrets le 23 et le 24. Tout cela va donner, je viens de le dire, aux mauvaises gens l'occasion de descendre dans la rue, plus exactement descendre dans les campagnes, puisque ce sont surtout dans les provinces où il y a eu des exactions. Cela va donner donc aux mauvais gens l'occasion de brûler les châteaux, de voler, de violer. Mais ça va donner aussi l'occasion aux braves gens de se regrouper et de se reconnaître. Car la contre-révolution, elle aussi, va naître au lendemain de la nuit du 4 août. Dès le 12 septembre 1789, Monseigneur Le Maintier, qui est évêque de Tréguier, va publier un mandement où il va condamner ces réformes d'août. Il va les condamner et il va stigmatiser les mesures qui transmettent, je cite les termes, qui transmettent le nerf de l'autorité royale entre les mains de la multitude. Je rappelle que le 14 juillet 89, donc déjà avant le 4 août, avant ces décrets fatals, avant ces décrets suicidaires, dès le 14 juillet 1789, lorsqu'à Paris, on prend la Bastille, c'est très curieux cette coïncidence, le 14 juillet 1789, des maréchins et des pédrés dans l'Ouest vont bâtonner des patriotes. Les pédrés et les maréchins qui vont être le fer de lance de l'armée de Charette dans quelques années. C'est très curieux. Donc pour en revenir à l'après 4 août 89, il y a donc ce mandement de Monsieur de Tréguier. Et puis on va avoir toute une fermentation. La France va s'opposer entre, comme je disais tout à l'heure, réacteux et patriotes. Le Languedoc, la Provence vont se lever. Le premier camp de Jalès va se monter le 18 août 1790, et les gens qui vont monter ce camp de Jalès vont publier une espèce de manifeste dans lequel ils expliquent pourquoi ils montent ce camp, en camp armé. Ce qui posait problème pour les loyaux sujets, parce que le roi était toujours là. Alors pourquoi montent-ils ce camp? Eh bien, ils le disent, c'est contre les usurpations de la soi-disant Assemblée nationale. C'est le premier camp de Jalès. Il y aura deux autres camps en 91 et en 92. En 90, il y a la tentative de soulèvement, de Monsieur de Lézardière, qui va former une espèce de ce que l'histoire appellera la Confédération Poitevine, où on va retrouver à l'intérieur de cette confédération la moitié des chefs historiques de la Vendée militaire. Ça va échouer, rien ne va en sortir, mais enfin il y aura une tentative. Et puis en 91, il va y avoir la création plus exactement de la fameuse association de la Rouerie, l'association bretonne, qui est le levain, à mon sentiment, de la Grande Guerre qui va éclater donc au mois de mars 1793. Mais c'est bien visible lorsqu'on observe le temps. À partir après le 4 août, il y a déjà avant le 4 août, les gens ne sont pas passifs et ne sont pas tous ravis de ce qui se passe. Je viens de rappeler ce qui s'était passé dans le pays de Ré et dans le Marais breton. Les gens ne sont pas satisfaits, mais ça va devenir bien. Mais le mécontentement va devenir bien plus général après le 4 août, lorsque ces privilèges, ces droits, qui sont des privilèges, puisque nous avons vu que les pays d'État avaient perdu aussi leurs droits, que les corporations vont perdre le leur, que toutes les communautés vont perdre des droits qui remontent, sinon dans la nuit des temps, du moins des droits multiséculaires. À ce moment-là, après le 4 août 89, il y a un bouleversement total à l'intérieur du royaume, et les Français vont commencer une guerre civile qui ne finira plus avant 1815.
Merci Jean-Cyl de Ventavon. Je crois que la démonstration est définitive. Dans cette nuit du 4 août, c'est cette nuit du 4 août qui a été amorcée la bombe qui va exploser avec la terreur.
C'est tout à fait.
Et aujourd'hui même, on pourrait célébrer, si on n'avait pas abandonné, si les socialistes et leurs successeurs n'avaient pas abandonné cette très très bonne idée de célébrer le bicentenaire pendant toute la durée du bicentenaire, parce qu'ils se sont limités à 89, mais c'était tellement plus rigolo plus tard, parce qu'en plus surtout en 94, ça va devenir alors là carrément irrésistible, parce que pratiquement tous les jours, il va falloir célébrer des ruisseaux de sang. Mais là aujourd'hui, on peut célébrer un grand moment qui est presque baladurien, je dirais. C'est un moment d'absence politique. Je lis les éphémérides de la Révolution publiés par Jean Tulleur, 4 août 1793, ratification de la Constitution de l'an 1, point. Elle ne sera jamais appliquée.
Ah oui, bien sûr. Mais si les républicains avaient été conscients avec eux-mêmes, c'est pas le 14 juillet qu'ils auraient dû choisir comme...
C'est le 4 août.
C'est le 4 août. Oui, c'est le 4 août que la société d'Ancien Régime éclate.
C'est bien joli, cette musique. C'est pas très approprié au sujet qu'on va évoquer, puisqu'on va parler, on va ouvrir notre chronique mensuelle Militaria, dans laquelle on parle de deux revues, de très très belles revues, qui s'appellent la Gazette des Armes et la Gazette des Uniformes, et qui cette fois-ci publient ensemble, le même jour pratiquement, des numéros doubles spéciaux, juillet-août 93. Alors, la Gazette des Armes est consacrée aux armes, comme son nom l'indique, et la Gazette des Uniformes, je vous laisse deviner. Quel est le sujet, Michel Bottereau, quel est le sujet le plus important de ce numéro de la Gazette des Armes, numéro 235? Ah, vous l'avez pas sous les yeux. Alors, je vous confie mon exemplaire, mais vous me le rendrez parce qu'il est tellement beau.
Je l'ai pas sous les yeux. Mais le sujet le plus important, c'est celui qui est en couverture.
Comme toujours.
C'est le fusil américain US-17
Le fusil Springfield, c'est ça?
Oui.
Alors, bon, une question. Comment choisissez-vous les sujets? Qu'est-ce qui détermine le choix de la décision de faire le portrait de telle ou telle arme plutôt que telle autre? Est-ce que, par exemple, c'est lié au marché de la collection?
Alors, en fait, c'est lié au marché de la collection, mais c'est lié surtout à l'esprit de la revue, qui s'adresse, je pense, à une certaine partie de collectionneurs, parce que il y a sur le marché plusieurs revues. Les armes sont à la fois des armes modernes et des armes de collection, ou même de la militaria ou des uniformes. Et tout ça, ce sont des sujets très différents les uns des autres. Tous les collectionneurs ne s'intéressent pas à tout, et chaque revue essaye donc de se spécialiser et d'intéresser une certaine frange, je dirais, de collectionneurs et de lecteurs.
Alors vous orientez le journal dans quelle direction?
La Gazette des Armes s'oriente principalement sur les armes de collection, les armes anciennes, mais aussi, contemporaines. Par exemple, les armes des deux guerres mondiales, les armes civiles du 19e siècle. Elles n'empiètent pas sur d'autres revues comme la Gazette des Uniformes, qui est donc spécifique, comme les revues Action Guns, qui s'occupent d'armes
modernes,
et essentiellement de tir.
Alors, c'est ça, les armes que vous évoquez sont pour l'essentiel donc destinées à figurent dans des collections ou dans des musées. Ce sont des armes qui sont, sauf exception, démilitarisées, qui ne fonctionnent plus, en tout cas, qui ne sont plus en usage dans les armées du monde, sauf peut-être chez les Bantous.
Disons qu'au niveau des collectionneurs, les armes sont démilitarisées, enfin du moins pour la plupart des armes récentes. En revanche, celles qui sont présentées dans la revue, surtout si elles sont essayées, si on fait des tests, ce sont des armes qui, elles, sont aptes à tirer.
Et quel est le statut légal d'un collectionneur d'armes? Parce que je sors un peu du sujet de la revue, mais j'entends souvent, enfin on entend régulièrement, tous les ans ou tous les six mois, on entend que un type a été arrêté dans le Nord, ou en général c'est dans le Nord, je sais pas pourquoi, et il a été trouvé propriétaire dans sa cave d'un formidable arsenal. Et alors quand on en enquête un petit peu, quand on se renseigne un petit peu sur l'affaire, on s'aperçoit que c'est tout simplement un collectionneur qui avait effectivement dans sa cave des dizaines d'armes, dont certaines n'avaient pas été démilitarisées dans les règles de l'art, ça c'est certain. Mais enfin, on voit bien que c'est pas un bandit de grand chemin. Ni un trafiquant d'armes.
Effectivement, il y a deux choses. D'une part, il faut bien préciser qu'il n'y a pas en France de statut de collectionneur. Ça n'existe pas. On est collectionneur.
Vous voulez dire que ça existe ailleurs, dans certains pays?
Oui, ça existe dans certains pays. En France, la seule possibilité de posséder une arme en état de tir, une arme classée, c'est d'être tireur, d'être licencié à la FFT et d'avoir une détention qui est accordée par la préfecture. Au niveau de la collection, la seule possibilité, c'est de respecter scrupuleusement la législation. Et c'est là que toute la difficulté réside dans cette législation qui est très complexe, qui évolue, qui change presque chaque année, et qu'en fait, personne ne connaît très bien, sauf les collectionneurs. En revanche, les forces de l'ordre qui sont de temps en temps amenées à enquêter ou à faire des visites surprises chez des collectionneurs ne sont pas toujours au courant, ni même, et ça c'est encore plus grave, les juges devant un tribunal. Et je connais des cas de personnes qui ont été condamnées pour une arme qu'elles pouvaient posséder sans aucun problème.
C'est extraordinaire.
Mais c'est tellement complexe, en fait. Et, entre autres, le problème, par exemple, du collectionneur de cartouches.
Oui,
vous pouvez très bien posséder une cartouche de calibre 9 mm Parabellum. Vous n'en avez qu'une, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous en avez plusieurs, on peut considérer que c'est un stock de munitions. Généralement, les collectionneurs en ont plusieurs parce qu'ils vont collectionner les neuf paras de diverses époques, de divers fabricants, de divers pays. Ils vont avoir ce qu'on peut appeler un stock de munitions, à la seule différence qu'il n'y aura pas deux cartouches strictement pareilles. Ils peuvent démilitariser ces cartouches, faire un trou dedans, retirer la poudre, mais c'est une opération un petit peu délicate et qui quand même...
Oui, non, je comprends.
Non, et puis en plus, elle abîme quand même l'objet collectionné.
Ah oui, par
il y en a, il y en a beaucoup qui le font parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'agir autrement s'ils veulent éviter les ennuis. Mais certains collectionneurs trouvent ça bien dommage et c'est vrai qu'il y en a qui s'y refusent. Et de temps en temps, il y a des problèmes comme ça. On nous dit effectivement qu'on a trouvé un trafiquant d'armes, ouais, alors qu'il s'agit d'un collectionneur.
Est-ce que ce sont des sujets que vous évoquez dans la Gazette des Armes? Est-ce qu'il y a une rubrique de défense du collectionneur?
Oui, tout à fait. Enfin, il y a une rubrique là, par exemple, dans ce numéro. Il y a une rubrique sur une chronique juridique où on parle justement des armes d'alarme et de la législation actuelle qui vient tout récemment d'évoluer, qui va évoluer encore. Et puis,
ça bouge sans cesse. Hein, c'est
oui,
ça.
Alors, un auditeur pose une question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, parce qu'elle est tellement précise et à la fois imprécise. Quel est le statut pour un revolver de 1892, demande-t-il?
Non, là c'est facile de le dire. Ah, malheureusement, le 1892 est toujours soumis, est toujours classé en quatrième catégorie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être détenu par un collectionneur. Et puis on le voit mal détenu par un tireur puisque c'est plus une arme de tir.
Donc il ne peut pas être, enfin en réalité
il doit être démilitarisé.
C'est ça.
Le 1873, le réglementaire français qui a précédé 1873 peut être détenu. Il a été déclassé. Et il peut être détenu légalement en état de tir. Le 1892, qui n'est pas vraiment plus puissant ni plus dangereux, on espérait beaucoup qu'il serait déclassé en 1992. Et puis, on attend toujours. Et puis, en fait, la législation ne prend pas vraiment le bon sens en ce qui concerne la liberté des collectionneurs.
Bon, notre conversation n'a pas beaucoup évoqué la Gazette des Armes, mais on en a quand même vu un petit peu le contenu. On voit que c'est pas simplement la présentation d'armes de collection, il y a aussi toute une partie d'assistance aux collectionneurs, chronique juridique, etc. Il y a le coin du chineur, il y a la présentation des livres. Alors, je vais quand même donner rapidement le contenu du sommaire. Il y a donc le fusil US 17 G10 Springfield, c'est pas du tout un Springfield, c'est un Eddystone. Il y a une mitrailleuse de poche, ce qui est quand même assez amusant.
Le Gaulois.
Une carabine Colt Lightning 44-40. Les pistolets de Beatus Beringer, les baïonnettes 1816, le fusil d'entraînement australien Enfield, Lee Enfield.
Oui, c'est un fusil en calibre 22 long rifle à un coup qui, là, était destiné à l'entraînement et qui peut être effectivement possédé sans problème par les tireurs et par les collectionneurs.
Et puis, la réplique du pistolet Kentucky Lux à Silex modèle 1812 et un prototype du revolver 1858 de Marine. Ça c'est le contenu c'est la liste des différentes armes qui sont présentées dans cette très belle revue. Je vous invite à faire connaissance avec cette revue parce que même si on n'est pas amateur d'armes, ce qui peut arriver à des gens très bien, moi par exemple c'est pas ma passion, il faut reconnaître que les photos sont très très belles et que on est impressionné par l'extraordinaire qualité du travail des fabricants d'armes. C'est vraiment des objets dont on comprend qu'on puisse tomber amoureux parce qu'ils sont d'une facture très très belle. Alors, cher de Philippe, vous, c'est plutôt la Gazette des Uniformes. Oui, une dernière question, si vous permettez, à Michel Botreau. Un auditeur demande si les armes à grenaille sont de port libre ou pas.
Alors ça, c'est assez complexe. Je ne sais pas si on peut répondre rapidement. Je crois qu'elles ne sont plus, en fait, de port libre.
Oui, alors,
la législation a changé. Il y a certains calibres qui sont maintenant interdits, comme le 9 Flaubert ou le calibre 22 à grenaille. Mm-hmm. Et au niveau du port, il y a eu aussi des changements.
Alors, il faut lire un numéro de Minute qui est paru il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus exactement, mais on peut téléphoner pour se renseigner au journal. Il apparaît que le décret qui a été signé par Jox juste avant son départ pour interdire le port des armes à grenaille est une sottise qui n'étonnera personne, mais une sottise heureux, Félix Culpa, comme disait l'autre, parce que il a voulu tellement préciser les choses que, si j'ai bien compris, l'interdiction ne porte que sur les armes à percussion annulaire, c'est-à-dire il y a un cas de percussion annulaire. Toutes les autres armes à percussion centrale ont été oubliées dans le décret, et par conséquent, par le fait, elles sont de port libre, puisqu'elles ne figurent pas dans le décret interdisant le port. Alors il faut vérifier ça en téléphonant à minute, au 40 05 10 91. Vous demanderez le numéro.
Ils ont fait la distinction effectivement entre percussion centrale et percussion annulaire.
Et ils se sont pris les pieds dans le tapis. Il nous reste...
Mais c'est pas sans raison quand même, hein. J'en ai parlé de façon un petit peu technique. Là, il y a deux calibres, c'est le 22 annulaire et le 9 Flaubert. Le 9 Flaubert parce qu'il est quand même nettement plus puissant que les autres. Et le 22 parce qu'elles étaient trop facilement transformables, paraît-il du moins, en 22 longs rifles.
Alors maintenant, je me tourne vers Richard de Filippi, qui lui va nous parler du contenu de la Gazette des Armes. Vous avez fait un papier, Richard de Filippi, sur le général d'armée français Pierre Hering. Qu'est-ce qui lui vaut cet honneur à ce général? D'abord, il a une belle prestance.
Ouais, et d'abord, il a de l'allure, et surtout, c'est un général Hering, donc prononce alsacienne. C'est un précurseur, c'est un novateur. Il a été directeur de l'école de guerre, ça a été même le plus jeune directeur de l'école de guerre. Il a été gouverneur militaire de Strasbourg, il a été gouverneur militaire de Paris en 40, ça a été le patron de l'armée de Paris. C'est le général Dens qui lui a succédé. Bon, le général Dens a fini sa carrière d'une manière assez tragique, puisque... Il a eu un procès à la Libération, et le général Hering est venu courageusement témoigner pour lui.
On lui a préféré Gamelin aussi.
Alors on lui a préféré.
Où il aurait mieux fallu préférer.
Et lui, c'est vraiment un novateur. En plus, il a eu sous ses ordres des gens qui ont parfaitement retenu son message, comme Charles de Gaulle, comme Juin, comme Delattre.
Je préfère ça quand même.
Comme Guillaume.
Non mais c'est un goût personnel.
Non mais je reviens parce que il a une lettre du général de Gaulle. Ils ont une correspondance très suivie, car le général Hering était devenu président de l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, et il a essayé de faire le transfert de la dépouille mortelle à Douaumont. Et il a cet effet, ils ont une longue correspondance, et ça a failli aboutir.
Vous citez la lettre qui est très importante, la lettre de...
Oui, il y a une coquille d'ailleurs, il y a une coquille, dit, malheureusement.
L'opinion que j'ai de la politique où il fut entraîné, il parle de Pétain, et que j'ai combattu, et le fait même que je l'ai combattu ne m'empêche pas, certes, de me souvenir des très grands services qu'en d'autres temps, où il était entièrement lui-même, il a rendu à la patrie.
Ouais,
ça module quand même pas mal...
Oui, oui, beaucoup de choses.
Ça,
oui.
Comme on dit maintenant, constamment, ça remet les pendules à l'heure.
Exactement.
Alors, j'ai voulu qu'on parle de ça brièvement, mais enfin, c'était important d'en parler parce que ça montre bien que la Gazette des uniformes n'est pas du tout seulement une espèce d'énumération en disant la vareuse à 44 boutons, les machins de 12 cm et demi, etc. C'est pas du tout ça. On voit les uniformes, on voit l'uniforme qui est fort beau d'ailleurs du général Hering, mais il y a un papier qui explique exactement qui il était, quelle était son importance militaire, quel a été son rôle dans l'état-major français.
Dans un cadre historique
et alors,
de l'époque.
De la même manière, un papier... de Gérard Gorokhov, la mode militaire russe de Nicolas Ier à Alexandre II. Ça, je sais qu'il va y avoir beaucoup d'amateurs.
Oui, ça, c'est très beau.
Les parachutistes italiens de 38 à 45, je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'amateurs aussi.
Oui, c'est beau sujet.
Et puis, alors là, vous faites un peu de concurrence à la Gazette des Armes, puisque vous publiez un papier sur les dagues de parade de la DDR, c'est-à-dire de la Deutsche Demokratische Republik, qui présentait la caractéristique de n'être pas démocratique, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est de très très beaux objets qui ressemblent étonnamment, d'ailleurs, aux objets de la période
d'une autre époque, tout à fait.
D'une époque sombre.
Tout à fait, d'une sombre époque, mais les autres étaient beaucoup plus beaux. Ceux-là sont pas d'une très très belle facture.
Magne de l'Est, jamais illustré par.
Non, c'est pas très beau.
De...
Les généraux sont un petit peu plus séduisants. Je veux dire, c'est un peu plus soigné, mais autrement, c'est pas très beau. Mais en revanche, ce sont des choses qu'on peut collectionner facilement parce qu'on en trouve encore pour l'instant.
Et puis j'attire l'attention des auditeurs. Je le fais à chaque fois, mais vraiment parce que c'est deux pages qui ont ma faveur. trois pages, même qui ont ma faveur, sur l'exceptionnelle galerie de miniatures historiques que vous présentez, les miniatures peintes, c'est-à-dire des plombs ou des résines. Ouais. Et c'est splendide, ouais, c'est vraiment splendide. Beau, ouais. Ça, alors là, c'est rien vrai. Que pour ça, il faut acheter la Gazette des Uniformes. Merci Richard de Filippi. Je rappelle l'adresse de des deux gazettes, la Gazette des Uniformes et la Gazette des Armes. C'est
25
rue Bargue dans le 15e arrondissement et voilà. On peut écrire pour avoir les conditions d'abonnement ou savoir et on peut trouver ça dans tous les kiosques. Merci à tous les deux d'être venus brièvement. Je ne dis pas aux auditeurs la semaine prochaine puisque normalement je ne serai pas là, mais je leur dis à bientôt et que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria. Document d'archives du 4 août 1993, rediffusé dimanche 15 juillet 2012 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole par avance. Merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.